Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On reprend nos droits et on se régale depuis le début de semaine. Vraiment, l'actu, beaucoup d'actu, et puis on a hâte de revoir la Ligue 1, reprendre ses droits. Donc ça arrive, vous inquiétez pas, vous trépignez un peu. On est là pendant 2 heures, on va se régaler parce que vous allez voir l'équipe, elle est top. Comme tous les jours, de toute façon, j'ai vraiment de la chance d'être entouré de ces membres-là. Incroyable. Ils font, c'est des cadors, tous des cadors. Ils font le football. Benoît Boutron, salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Pas Benoît, hein, mais ça va Benoît?
Ça va, écoute, écoute. Bah, parfois je trouve mes analyses plus pertinentes que certains. Mais... Ah. Ouais.
Bon, bah, on va voir le casting, vous allez vous poser la question. On est avec le dinosaure Jean-Michel Larquet. Ah, salut Jean-Mi.
Là non.
Bonsoir messieurs, bonsoir.
Bonsoir Jean-Michel.
Ah, Jean-Mi.
Tout va bien, merci.
Bon, merci. Ouais. Là non, là c'est sûr que non.
On est avec l'homme de province, c'est Stevie. Stevie Savidan. Salut Stevie.
Là. On dit pas l'homme de province, on dit l'homme de la province.
Là, je me dis peut-être que oui. Sur le niveau d'analyse.
L'homme de la province.
Bah oui. Parce qu'il y a, ouais, parce que je suis dans la province en général.
Ouais. D'accord.
Voilà, c'est tout.
Ouais.
Jean-Michel, tu peux nous aider à comprendre du coup?
Non, c'est au-dessus de mes moyens. Ça, on le sait, mais bon,
c'est pas grave, on peut t'expliquer. Donc en fait, la province, en fait, c'est tout ce qui est en dehors de Paris et des grandes villes.
La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre.
C'est pas faux. Il faut toujours une petite citation comme ça.
T'as raison, Stevie, c'est ce qui fait ton charme.
Non, c'est Jean-Michel qui a raison.
Quelle culture, c'est beau.
On a un grand retour sur flamme, on vous l'a dit, avec plein de bons sujets. Évidemment, le sujet incontournable, c'est le Maroc. Le Maroc qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À 19h30, Younes Belhanda va nous rejoindre. Est-ce que le Maroc a fait le plus dur hier? Avec cette qualification.
Ah ouais, ça a tremblé, je te rassure.
Il n'y a pas que le téléviseur qui a tremblé hier.
L'immeuble a failli se casser la gueule à Port-Saint-Cloud.
C'était long hier.
Il penchait, je pensais qu'il y avait une tempête.
Il y a eu un séisme.
Et le pire, et Jean-Michel et Steve, le pire, c'est pas ça, c'est que t'essayes de le joindre pour autre chose. Parce que moi, je prépare une émission et j'ai envie qu'il soit investi. Et il me répondait pas parce que sa femme lui a dit non, tu vas nous porter la poisse.
Non, tu réponds pas.
On l'embrasse, Sam.
Je me suis fait guigner. On était avec Jean-Michel. On suivait le trophée des champions. Pierre Dorian m'envoie bravo, c'est mérité à la 89e minute. J'ai eu le malheur de répondre. Bah voilà, Marseille s'est fait éliminer au tir au but. Je ne réponds plus pendant un match, Jérôme. Tu m'appelles pas pendant le match, tu m'appelles après si tu veux.
Mais non, mais Marseille-Paris, t'es objectif, t'es neutre. Là, c'est Maroc, c'est normal, c'est une histoire de famille.
Bon, les deux.
Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est que cette émission que je fais, moi? Il faut être objectif.
Bon, alors.
Moi, à Paris-Marseille, je
donne. T'es pas les plus en plus.
Je suis neutre. Après, si c'est Paris qui gagne à chaque fois, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Une légende du PSG sera là, à 18h45.
Et quoi que même quand Paris perd, c'est Paris qui gagne.
Ouais. Attendez, il y a une légende du PSG qui sera.
Mamadou Sakho sera avec nous.
Ah, bah
18h45, il vient d'annoncer sa retraite officiellement. Mamadou Sakho.
Il a reçu un trophée.
Il a reçu un trophée.
Je vais l'appeler.
Bah voilà, exactement.
Normal,
donc, nous ne loupons pas ce grand moment. Et puis, on aura un très beau procès à 18h30.
Il est meilleur passeur de l'histoire.
On va ouvrir le procès de tous ceux qui nous bassinent avec le beau jeu en sélection. Il y en a marre de cette histoire. Ah oui, mais on ne joue pas tous comme l'Espagne, tout ça, etc. Un membre de la Dream Team les défend, tous ceux qui nous bassinent avec le jeu. D'autres les attaques. Vous aurez la réponse donc à 18h30. Et puis l'événement sur RMC, c'est l'expérience RMC autour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Marseille-Liverpool, mercredi 21 janvier, 21h au Vélodrome.
Ça c'est un match.
21h. L'expérience RMC, c'est
l'Orange Vélodrome va bouillir.
Ça va être dingue. Deux places pour le match, deux maillots collecteurs de l'OM, Marseille Monumental. Dès que vous entendrez ce signal sonore, vous aurez 5 minutes pour envoyer OM au 732-16. OM au 732-16.
Allez-y, hein. OM favori en plus, hein, parce que vu qu'ils ont trimballé le champion d'Europe.
Ah bah oui, pour moi, il n'y a pas photo.
Ah ouais.
Allez tout de suite, Jérôme, justement. Pourquoi changer une équipe qui gagne alors?
Tu vas rester sur la touche si tu bouges trop lentement, c'est la.
La réussite d'un changement stratégique dépend d'une part de son rythme de mise en œuvre.
Notre mercato reflète l'équipe, on n'a pas besoin de beaucoup de joueurs.
Mais aussi de l'importance des transformations qu'il véhicule pour l'entreprise.
On est surtout dépendant de l'incurie
de
nature incrémentale, il est mis en œuvre pas à pas, par étapes successives.
Une équipe, c'est comme un puzzle, il faut que les pièces y font clic.
Le changement est susceptible d'emporter l'adhésion, en conséquence d'être moins traumatisant.
J'en parle même pas parce qu'on en parle.
Et certains aspects méritent d'être mieux mis en cohérence.
Aucun regret sur le mercato d'été.
Zéro regret, on a fait ce qu'on a pensé à faire.
Tu sais, en général, quand tu fais deux fois la même connerie, à un moment donné, c'est soit t'as pas appris, soit t'es...
Soit quoi ?
T'as compris.
C'est la course, on a tous du mal à suivre.
C'est donc la stratégie du Paris Saint-Germain depuis l'été dernier, la fin de saison historique réalisée par le club. Conserver les joueurs présents dans l'effectif et limiter le nombre de recrues. Deux joueurs de champ l'été dernier, un gardien de but forcément, puisque Lucas Chevalier a remplacé Gianluigi Donnarumma. Paris a souffert des blessures sur les premiers mois, on n'a pas arrêté d'en parler dans Rotten sans flamme. Aujourd'hui, un seul titulaire manque à l'appel, c'est Achraf Hakimi qui va faire la finale de la CAN avec le Maroc dimanche. L'enjeu du moment, c'est plutôt de prolonger des joueurs comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Fabien Ruiz ou encore Seni Mayulu. Parlons-en avec Arthur Perrault qui nous rejoint. Salut Arthur.
Salut messieurs. Bonsoir à toutes et à tous.
Salut Arthur.
C'est toi qui as la réponse à cette question. Est-ce que Luis Enrique est fermé à l'idée de recruter de nouveaux joueurs cet hiver?
Eh bien, pas totalement. Il faut dire que le début d'année est loin d'être évident à Paris. On le rappelle, hein, des blessures à la chaîne encore aujourd'hui avec João Neves. On l'a appris, forfait pour Lille. La fatigue accumulée donc et la défaite face au Paris FC. Le coach parisien l'assume aujourd'hui face aux médias. Paris reste à l'affût de la moindre opportunité lors du mercato hivernal.
Bien sûr, on est ouvert. On est ouvert pour le temps. On est ouvert à profiter aucune possibilité. C'est notre manière de gérer ça. Mais ce que j'ai vu de l'équipe, c'est pour moi très positif. On est ouvert, on est prêt pour aucune possibilité, mais sans aucune précipitation.
Surtout que le marché des transferts s'achève le 2 février prochain et qu'à cette période de l'année, difficile de trouver un joueur capable de s'intégrer rapidement au groupe parisien, comme cela avait été le cas notamment avec Vishak Varadzreli.
Merci Arthur, la une de Rotten sans flamme. Est-ce que le PSG a raison de ne rien changer? 32-16 pour participer avec nous. Avant ton avis, Jérôme, le direct du soir sur RMC, c'est le handball avec le début de l'Euro pour l'équipe de France masculine face à la République tchèque. Salut Nico Paolorsi.
Salut les amis, salut à toutes et à tous. Et autant à Oslo, il fait très froid dehors avec des températures négatives, autant l'équipe de France est en surchauffe pour lancer son championnat d'Europe, puisqu'après 5 minutes de jeu, les Bleus mènent déjà 6-0 face à la République tchèque.
Ah ouais,
le championnat d'Europe.
Ah,
mais c'est pas mal.
C'est pas mal les Tchèques.
Les Tchèques, c'est pas si mal que ça. L'Euro, Jérôme, c'est la compétition la plus dure à gagner. Il y a une densité assez dingue. Et c'est surtout la France qui est en train de faire un super début de compète. Les Bleus qui défendent leur dernier titre. Ils sont tenants du titre de ce championnat d'Europe et c'est le dernier trophée qu'il leur reste. Donc voilà, les Bleus pour l'instant sont bien partis dans 7 euros. 5 minutes de jeu, 6 buts 1.
Ils nous font pas douter, ces Tchèques.
Nico.
Oui, Steve.
Non, mais t'as joué un peu au paddle, tu t'es entraîné là-bas ou pas?
Oh là là.
Non, j'ai fait la semaine dernière, tu sais, on a fait la doublette ensemble.
Tu as un ralentisseur toute la soirée. Hein.
Ah ouais, non, mais.
Un ralentisseur Je suis un rond-point.
Bon. Vous parlerez paddle dans un podcast, hein, si vous voulez.
C'est intéressant.
Parlons donc du Paris Saint-Germain.
Ça part bien, l'émission part bien.
C'est pas mal.
Allons-y, Jérôme. Est-ce que Paris, selon toi, a raison de ne rien changer, de ne pas recruter cet hiver comme ça a été fait l'été dernier, un recrutement très, très limité pour le Paris Saint-Germain?
Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est de tirer déjà des plans sur la comète à mi-saison et de se dire, avec tous les blessés qu'ils ont eus, avec les suspendus, la CAN, de se dire qu'il y a quand même des circonstances atténuantes qui ont, si tu veux, œuvré sur les performances de l'équipe. On n'est pas sans savoir et on l'a tous dit parce qu'on essaye d'être le plus objectif possible avec le PSG. En effet, il y a eu des victoires poussives. Il y a eu très peu de matchs complets de la part du Paris Saint-Germain comme quasiment tout au long de l'année dernière et surtout sur les 6 derniers mois. Ça, c'est la réalité. Mais est-ce que parce que depuis 6 mois, il y a beaucoup de blessures, qu'ils se cherchent un peu, que en effet l'état de forme de certains laisse un petit peu à désirer par rapport aux performances incroyables de l'année dernière, le niveau d'exigence qu'ils avaient mis, tous, ils étaient sur une dynamique incroyable. Je pense qu'on a joué au foot de haut niveau. Le plus dur, c'est la constance, la régularité, mais ça arrive. À tous les joueurs, ça arrive. Le problème, c'est qu'au PSG, il s'est accumulé beaucoup de choses, comme je viens de le dire, et qu'il y a des joueurs qui, on attendait, qui continuent leur progression, et là, je parle des jeunes joueurs. Mayulu est l'exemple type. Mayulu, moi, l'année dernière, j'ai adoré ce joueur. La progression, à chaque fois qu'il rentrait, il faisait des différences, que ça soit sur des petits matchs ou sur des grands matchs. La preuve, c'est qu'il marque en finale de la Ligue des Champions. Ce mec-là, il a passé plusieurs caps en quelques semaines. C'est la réalité. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est retombé. Mais c'est pas grave. C'est pas pour autant que tu dois lui mettre dans les pattes un mec qui a déjà eu des repères en Ligue des Champions ou qui a un certain âge avec plus d'expérience et qu'on va te dire tiens ce mec là il va faire mieux que Maiulo sur les 6 premiers mois peut-être.
Après, c'est l'éternelle question, est-ce qu'il joue parce qu'il comble une carence ou parce qu'il a le niveau de jouer
dans cette équipe? Mais il joue parce que la politique du club voulait pas le savoir, donc ouvrez grand vos oreilles. Voulait pas savoir que le club, il y a 3 ans, ils ont pris une autre trajectoire dans la politique direction, du club. Ouais. C'est-à-dire que, en effet, il y a des joueurs expérimentés. Il y en a encore dans l'équipe, et heureusement, parce que eux, c'est la sécurité, si tu veux, sur l'ambiance du vestiaire et sur la qualité des matchs. Et puis à côté de ça, t'as de la jeunesse qui est là pour se développer, pour apprendre vite, parce que dans un club comme le PSG, tu dois apprendre vite. Je pense qu'ils l'ont bien fait l'année dernière, parce que ils ont tout gagné. Ils ont été champions d'Europe. Et donc aujourd'hui, ces mecs-là sont récompensés par des prolongations de contrat, par de la présence plus régulière dans l'équipe première. En effet, ça a amené un peu des fluctuations dans les performances, mais c'est pas pour autant que ces mecs-là, il faut les renvoyer au placard et dire bah non, maintenant on va vous ramener des mecs d'expérience, parce que là tu rentres dans une autre politique du club et le club veut pas ça. Donc moi je vous dis, soyez patients. Même moi, j'essaye de mettre les formes quand le PSG fait des contre-performances comme contre le PFC. Mais il faut aussi dire quand ils sont pas bons et quand il y a des attitudes qui me laissent présager que ça va pas forcément être le ciel bleu dans quelques mois. Mm-hmm. Mais ça, on est en droit de le dire. Mais c'est pas pour autant qu'on va tirer des plans sur la comète et envoyer ces mecs-là parce que les 6 mois ont été moyens et que là, vu qu'ils ont été moyens, maintenant vous allez dégager. Mais l'année dernière, ces mecs-là, avec cet effectif, ils ont tout gagné. Je vous répète,
oui, mais
ils n'avaient pas besoin de. Mais d'accord.
Alors vas-y, Jean-Michel.
Je n'arrive pas. On leur demande pas que ceux qui sont là, on leur demande pas, et notamment les jeunes, puisque tu en as parlé. Enfin, des jeunes, tu en as parlé, mais tu en as parlé d'un, hein, me semble-t-il.
Oui, j'ai parlé des jeunes. J'aurais pu en mettre d'autres, mais
qui tu veux mettre?
Tu peux mettre Njantou qui a débuté au début.
C'est toi-même qui a dit. C'est toi-même qui a dit que c'était un feu de paille. Donc
oui, attention. Bon, ce que je veux dire, c'est que
tu peux. Vas-y. Ne mets pas des joueurs dont tu sais que tu peux pas compter sur eux pour jouer au niveau du Paris Saint-Germain. Bon, parce que on parle là quand même du champion d'Europe et d'un des meilleurs clubs, si ce n'est et d'un des meilleurs clubs en Europe et au monde. Bon, je veux bien, mais Jérôme, on parle pas de virer les gars qui y sont. Il y en a déjà qui ont été virés. Il me semble qu'il y a eu
pas beaucoup qui ont été virés
de départ. Alors ce n'était pas que des titulaires, je te le dis. Il y a eu Asensio qui est parti. Qui c'est qui est parti à l'intersaison?
Skriniar.
Donnarumma.
Skriniar,
c'était pas, c'était soi-disant pas mal. Asensio qui est parti.
Skriniar, pas mal.
Donnarumma. Comment?
Skriniar, pas mal. Tu m'as dit.
Où est-ce que tu veux en venir, Jean-Michel, en fait?
Ces mecs-là ont été remplacés, Jean-Michel.
Je pars du principe que même une équipe qui gagne, il faut lui apporter du renouveau. Même une équipe qui gagne, il faut lui apporter une nouvelle énergie. Alors, c'est à minima, mais c'est pas. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux évidemment parier sur quelques jeunes qui veulent arriver. Maiulu, Mbaye, Njantou un peu moins. Et puis. Tu peux parier sur un ou deux joueurs de grande qualité.
Oui, mais si tu les prends, les jeunes vont plus jouer.
Enfin, t'es un grand club, Jérôme. Si les jeunes sont vraiment talentueux, ils vont quand même.
Si tu prends,
en compte le nombre de matchs.
Arrête avec tes bêtises avec le nombre de matchs. Ah bon, la preuve, ils ont déjà plus la Coupe de France, donc le nombre de matchs et quoi.
Pourquoi ils ont pris à l'intersaison. Ils ont pris Zabarni
pour remplacer Skriniar.
Et ils ont pris Lucas Chevalier pour remplacer
Donnarumma. Voilà, c'est ça. Un joueur de champ, pas deux. Ouais. C'est ça.
Ils ont pris ces joueurs-là parce que c'était des joueurs qui étaient censés.
Ce n'est pas suffisant.
Mais le reste, ils sont restés, Jean-Michel. Le reste des joueurs sont restés.
Mais non, il y en a qui sont partis. Mais alors, je ne veux plus entendre.
Mais qui est parti? Dis-moi des noms. Des joueurs qui
de temps en temps pouvaient te donner un coup de main.
Mais c'est
peut-être
qui?
Peut-être que l'effectif. Mais non, mais tu n'es pas obligé.
Tu me parles d'Asensio.
Mais je ne te parle pas de ceux qui sont partis. Je te parle d'améliorer l'équipe actuelle.
Mais ils améliorent l'équipe avec de la jeunesse, c'est leur politique.
Il y a Soler, ouais. Asensio, Colomoyni. Mais bon, après, Colomoyni est prêté les 6 derniers mois.
Si les jeunes qui ont 19 ans s'appellent Mbappé, Doué, je veux bien. Mais les jeunes qui ont 19-20 ans, ils ne s'appellent pas Mbappé, ils ne s'appellent pas Doué, ils n'ont pas ce niveau-là.
Mais l'année dernière, il s'appelait Mayulu, par exemple. Est-ce que toi, tu as été surpris de la performance? Parce qu'avec Mayulu l'année dernière, Jean-Michel, qui a beaucoup joué quand même, ils ont été champions d'Europe.
Oui, mais c'est pas grâce à lui.
Jean-Michel, Benoît, en Ligue des Champions, tu comptes pas sur les jeunes pour faire passer le cap, d'accord? Et ben alors, et ben donc l'effectif est suffisant.
Même quand une équipe marche bien.
Bon.
Même quand
oui, tu dis qu'il faut rajeunir, il faut changer.
Non, je te dis
pas rajeunir, mais rafraîchir.
Il faut apporter tout le temps une petite
dose. Oui, mais ça se vérifie pas. Ça se vérifie pas tout le temps ce que tu dis, Jean-Michel. Parce
surtout
que
mercato d'hiver.
Si tu veux, regarde.
Si on avait la vérité, tout le monde l'a.
Non, mais par contre, il y a une vérité. Il y a une vérité, Jean-Michel, et tu le sais aussi bien que moi, parce que t'as vécu avec des groupes, un groupe de joueurs avec un entraîneur, avec le même staff. C'est une durée de vie à peu près de 2-3 ans. On est d'accord avec ça? T'es d'accord avec ça? Sans forcément ramener un petit peu de fraîcheur, comme tu le dis. Ils sont dans la troisième année, le PSG. Ils sont dans cette troisième année. Et en plus, ça a été rafraîchi, alors après qu'on soit d'accord ou pas, avec de la jeunesse, des jeunes qui viennent du centre de formation. D'accord? Et l'année dernière, avec Kvaratskhelia, parce que l'année dernière, ils ont quand même pris Kvaratskhelia.
Oui, ça a changé beaucoup de choses.
Jérôme. Je vais juste te dire, tu me parles de Mayulu, et tant mieux, tu aimes ce joueur, il n'y a aucun problème. Et tant mieux pour lui, et on lui souhaite le meilleur. Tu sais combien il y a de temps il a joué à partir des huitièmes de finale de la Ligue des
Mayulu,
Champions League, Mayulu. Je me pose la question à Jérôme.
Combien?
Je ne sais pas, pas beaucoup. Il est rentré en finale.
15 minutes.
Il est rentré en finale. Il a dû rentrer.
Il a joué 6 minutes, Jérôme.
Ah, bah il a réussi à marquer un but hein, quand même.
Oui, mais 6 minutes. Tu ne peux pas dire qu'il a compté sur les moments décisifs du PSG.
Franchement, de.
Bon, Steve, qu'est-ce que tu en penses alors?
Bah, moi, ce que j'en pense, et ça va vous étonner, mais moi, je suis en phase avec la conférence de presse de Luis Enrique, en fait.
Okay.
En fait, il dit on va pas gagner tous les trophées, on va pas gagner tous les matchs, tous les ans et tout. Et en fait, moi, j'ai compris lors de cette conférence de presse, j'étais pas parti là-dessus, puis j'ai compris pendant cette conférence de presse, c'est qu'en fait, lui, il a une vision claire, en fait, il a une vision à long terme. En fait, nous, on est frustrés très souvent du jeu, des fois des résultats, des contre-performances. Mais en fait, sa philosophie, elle est très claire. Elle est assumée. Et comme je dis, elle est frustrante, en fait, pour nous qui regardons le PSG. Alors, peut-être même plus pour ceux qui sont les fans du PSG. Bah, en fait, sa stratégie, elle est très simple. Il veut construire, année, mois après mois et année, un effectif cohérent qui est en phase avec ce que lui pense du football. Pourquoi il ne recrute pas, comme tu disais tout à l'heure, Jean-Michel? Pourquoi ils recrutent pas des top players qui ont énormément d'expérience? Parce que ça va être très dur à façonner. Parce que il va y avoir beaucoup plus d'ego. Pourquoi il amène pas ces joueurs-là, cette fraîcheur, que ça soit au mercato d'été, ou là où je suis un peu d'accord, c'est pas de prendre non plus beaucoup de joueurs, voire des très grands joueurs au mercato d'hiver, parce qu'on a encore moins de certitudes. Mais parce que pour inclure ces joueurs-là dans un système de jeu, un collectif, c'est très compliqué avec sa philosophie de jeu. Pourquoi au final ils ont pas pris de jokers médicaux pendant ces blessés qu'ils ont eu sur août, sur septembre, ces déconvenues, peut-être un peu de baisse de régime en termes de résultats? Parce qu'il veut garder une cohérence, même si le temps va être long à former ces jeunes joueurs, c'est pour lui des joueurs qu'il va former à sa philosophie de jeu. Que je sois d'accord ou pas, c'est pas un problème.
C'est vite un problème avec les joueurs confirmés.
Exactement. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça. Et lors de sa conférence de presse, j'ai compris.
Mais non, il s'évite pas un problème avec les joueurs confirmés.
Bah si, il a dit lui-même.
Non, c'est pas, il s'évite un problème.
Quand on parle de backup à Kimi, Benoît,
c'est pas, il s'évite un problème.
Non,
mais c'est pas, il s'évite un problème. C'est qu'il est cohérent, en fait, avec ce qu'il fait.
Mais c'est incohérent ce que tu racontes, Benoît. Hakimi, tu dis, il a pas de doublure. La preuve, c'est qu'il est en train de vous fermer votre bouche. C'est que la doublure d'Hakimi, c'est Zahir Emery. Et moi, je dis depuis le début, il stagnait, voire il régressait au milieu de terrain. Je pense que son rôle, il est plus sur le côté
droit.
Et puis Jérôme, on va pas se mentir.
Il est bon, Zahir Emery, depuis qu'il joue.
Excellent.
Donc il est arrière droit.
On va être d'accord. Et les résultats, ils sont là quand même. Il y a une domination nationale.
Avec les tout jeunes, avec Mayoulou, avec Elonchou,
Zahir Emery, il est arrivé. Jean-Michel, Zahir Emery, il est arrivé il y a deux ans. Il y a deux ans à peu près, Zahir Emery. Donc, au bout de deux ans, il arrive. Bien sûr qu'il
Il joue pas six minutes. Il joue pas six minutes.
Oui, mais arrête. Jean-Michel, tu joues sur les mots. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que tu fais semblant de pas comprendre. Tu dis six minutes en Ligue des Champions. Ok. Je te dis pas que Mayoulou ou les jeunes vont te faire gagner la Ligue des Champions. On est d'accord que l'équipe type du Paris Saint-Germain qui a gagné la Ligue des Champions, il y a pas de jeunes dans cette équipe. Est-ce que les joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions sont encore là? Oui. Est-ce que les joueurs qui ont gagné cette Ligue des Champions et qui sont encore là ont encore fin de Ligue des Champions? Moi, je te dis oui.
Bah, on sait pas.
Mais tout ça, je ne le discute pas, Jérôme.
On sait pas.
Je te dis que si
tu veux se blesser sur la deuxième partie de saison,
si tu veux maintenir le niveau et si tu veux améliorer, et je vous ai entendu, je veux construire, je veux ceci, je veux cela, et si tu veux améliorer ton groupe ou le maintenir au haut niveau.
Tu rajoutes de la concurrence.
Alors?
Non,
c'est ce que tu me dis. Tu recrutes un ou deux mecs.
Je te renvoie
vu que Mayoulou, par exemple, pour parler de Mayoulou, parce qu'il n'y a pas que lui. Allez, mais là, on parle de Mayoulou. Tu me dis, il a joué 6 minutes en Ligue des Champions. Oui. Ok, d'accord. Et en plus, les 6 plus belles minutes, parce que c'est en finale en marquant un but. Mais en effet, cette année, Mayoulou, j'imagine qu'il aura envie, et ça a été le cas sur les matchs de Ligue des Champions déjà du Paris Saint-Germain, les 6 premiers, où il a eu beaucoup de temps de jeu, il aura envie de jouer des matchs à élimination directe. Parce qu'il a un an de plus.
Si
tu prends un joueur de plus ou un deuxième, c'est-à-dire un milieu de terrain, par exemple, avec de l'expérience, pour suppléer Joao Neves, Vitinha ou Fabian Ruiz. Ok, d'accord. Mais ça veut dire que ces mecs-là, le mec qui va arriver ou les deux qui vont arriver, ils vont prendre la place.
Ah, bah, ça, c'est le principe d'un grand club. Eh oui.
Mais quel grand club?
L'année dernière,
avec cet effectif-là, c'est ça que vous voulez pas entendre et que vous êtes incohérent dans vos propos. C'est qu'avec cet effectif-là, certainement que toutes les planètes étaient bien alignées.
Avec 100% de réussite et pas de blessure dans les moments.
Eh ben, d'accord. Eh ben, écoute, alors peut-être, est-ce que toi, t'as la réponse?
Non,
est-ce
qu'ils vont se blesser ou pas?
Mais je l'ai pas plus que toi.
Demandons à Demba s'il
est là. Est-ce que c'est dramatique s'ils se reblessent, malheureusement, je leur souhaite pas aux joueurs, et qu'ils se reblessent et que le PSG sorte en 8e de finale de Ligue des Champions.
Ah bah ça serait décevant, bien sûr.
C'est décevant, mais c'est pas dramatique pour autant.
Accueil Demba, supporter parisien, Jérôme.
Salut Demba.
Salut l'équipe.
Salut Demba.
Bienvenue Demba.
Bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses à tout le monde.
Bah, tu as raison, toi aussi. La santé, c'est la base, et des bonnes émissions qu'on transpire pas trop. Voilà. Bon, Demba, alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que toi, déjà, l'effectif, il te convient, et est-ce que tu aurais recruté si tu avais été à la place de Luis Campos et Luis Enrique?
Et Luis Enrique, ouais, moi je pense que si j'ai été à leur place, quoi, j'aurais rajouté ne serait-ce que 2-3 joueurs, histoire de casser le truc, parce que les joueurs, il y en a certains sont dans un confort. Ils disent, moi je sais c'est que vrai. Personne ne va me prendre la place. Tu parlais tout à l'heure de Mayoulou, mais par exemple, Vitinha, lui, personne ne peut lui prendre sa place. Hakimi pareil, personne ne peut lui prendre sa place. En fait, je pense qu'ils auraient dû recruter histoire de créer encore plus une concurrence et d'améliorer l'effectif et d'améliorer les performances individuelles des joueurs. Et ça, je trouve ça dommage. C'est-à-dire que là, les joueurs sont tous dans un confort.
Pas faux.
Mais en fait, Demba, c'est possible.
Il vaut mieux s'appeler Demba pour convaincre Jérôme.
Non, Demba. Mais non, mais je parle calmement, Demba, parce que. Non, Demba. Mais. tu peux avoir raison. Et en effet, et je vais même dans votre sens et dans ton sens, Demba. Je trouve que sur certains matchs, sur la première partie de saison, et le match contre le Paris FC en Coupe de France, ce n'est qu'un match de Coupe de France, mais à domicile, ça fait quand même tâche de perdre comme ça. Peu importe, ils l'ont fait. Je pense qu'en effet, il y a un peu de suffisance. Ils en font pas assez. Ils sont sur un faux rythme. Bon. Et peut-être qu'en effet, les joueurs qui sont censés jouer la Ligue des Champions, ils se disent de toute façon, même si je suis moyen, je jouerai les matchs de Ligue des Champions. Ok, il n'y a pas de problème. Bon. Sauf que allez, faut y aller. Là, ce que vous avez oublié, c'est que si ces mecs-là arrivent à appuyer sur le bouton et à se dire maintenant on remet le bleu de chauffe et on va faire comme l'année dernière, on va écraser tout le monde, on va en mettre plus.
Oui, tu peux dire.
Et ben moi je dis juste que ces joueurs-là, ils ont gagné ce crédit-là, si tu veux, ce confort-là, bon, l'année dernière, en nous.
Jean-Michel lève le doigt.
Le crédit long, le palmarès long,
oui,
le titre de champion d'Europe long.
Merci Demba, de 32-7.
D'accord. À bientôt. Comment tu prolonges les jeunes si tu leur dis on va ramener des joueurs d'expérience et vous allez moins jouer?
Tu dis à partir du moment où ils vont appuyer. Alors je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier. J'ai lu un truc sur un joueur. Il suffisait qu'il se réentraîne et puis qu'on appuie sur le bouton pour que bientôt il retrouve l'équipe de France.
Ah, Paul Pogba.
Oui.
Mais ça se fait pas comme ça, Jérôme.
Non, mais ça, mais il a été à l'extrême. On parle pas de Paul Pogba. Arrête.
Mais vous-même, vous avez dit, il va rejouer.
Vous-même, parce que c'était,
je rêvais
de ça, parce que Paul, je l'adore, et le joueur, je l'ai adoré, contrairement à toi. Mais, en effet, quand tu sors de 3-4 ans sans jouer, bah, la preuve, c'est que c'est très, très compliqué.
Allez. Quelle belle musique. C'est le moment d'envoyer OM au 732-16 pour gagner l'expérience RMC. Vos places pour le match Marseille-Liverpool la semaine prochaine, mercredi.
Marseille favori, hein.
Eh ben, on verra. Avec maillots collecteurs de l'OM à gagner, des maillots Marseille monumental. N'hésitez pas, OM au 732-16. Point rapide sur le handball avec l'Euro et ce match entre la France et la République tchèque, Nicolas Paul Orsi.
5 buts d'avance pour l'équipe de France, 16 à 11. Les Bleus qui ont déroulé en attaque, ça devient un petit peu plus dur défensivement. On sent que les Tchèques ont trouvé des solutions, notamment en jouant en supériorité numérique. Il reste 11 minutes dans ce match, plus 5 pour les Bleus.
Et dans un instant, le procès de tous ceux qui nous bassinent avec le beau jeu en sélection. A tout de suite sur
RMC. RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h31 sur RMC. On est là, on est bien dans Rotten sans flamme. La deuxième demi-heure, c'est maintenant avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan et Benoît Boutron, comme tous les jours. Vous en avez l'habitude, à 18h45 on reçoit une légende du Paris Saint-Germain, Mamadou Sakho, qui vient d'annoncer sa retraite. Et ben, il nous expliquera comment il vit ça. Ça va être un bon moment dans 15 minutes, mais avant on fait un bon procès.
Procès autour du jeu en sélection. Ouais. Le direct, c'est donc le handball, l'Euro qui démarre pour l'équipe de France masculine face à la République tchèque. Nicolas Paul Orsi.
6 grosses minutes avant la mi-temps, les Bleus sont toujours devant, 2-5 buts, 17-12, mais ça commence à se durcir et on voit les rotations bleues là qui sont moins efficaces que l'équipe de départ. Malgré tout, c'est un bon début de compétition dans cet Euro pour les Bleus. Plus 5, 6 minutes à jouer avant la mi-temps.
Merci Nico, en direct d'Oslo, on y va pour le procès.
RMC, Rotten sans flamme.
J'ai vexé des gens. J'ai le président d'Annemasse qui m'a appelé.
Bah, en district.
Il m'a dit, il nous a insultés en nous comparant au milieu de terrain de l'équipe de France. Et je tiens à m'excuser auprès de tous les milieux de terrain de D1 de district d'avoir comparé l'équipe de France au mauvais milieu de terrain de l'équipe de France en Croatie.
Le procès de Rotten sans flamme.
Bonjour Jean-Michel, sur le niveau technique des milieux de terrain de l'équipe de France.
Ouais, je m'en suis pas remis, moi.
Allons-y sur ce débat. Faut-il arrêter avec cette obsession du beau jeu dans le foot de sélection? C'est un reproche qui est fait à Didier Deschamps depuis de nombreuses années, voire depuis son arrivée en 2012. Des critiques qui touchent actuellement le Maroc de Walid Regragui, pourtant demi-finaliste de la Coupe du Monde et qui disputera dimanche la finale de la Coupe d'Afrique. L'exemple régulièrement cité, c'est bien sûr l'Espagne, ce jeu collectif, efficace, esthétique. La sélection espagnole qui s'appuie sur un profil de joueur particulier, notamment ses milieux de terrain techniques et créatifs. Allons-y sur le procès donc de tous ceux qui nous bassinent avec le beau jeu en sélection. On a deux procureurs ce soir, Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir.
Et Steve Savidan, bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat, justement, de ceux qui nous bassinent, c'est Maître Larquet, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Et le verdict sera rendu par un supporter du PSG au 32-16, c'est JB qui est là. Salut JB.
Bonsoir à tous.
Sois le bienvenu JB.
Salut JB.
Vas-y Jérôme, ton avis sur le foot de sélection, est-ce qu'il faut arrêter d'espérer de voir les sélections jouer comme le Barça?
Non mais en fait c'est un fantasme un peu de supporter, de suiveur d'une sélection ou d'amoureux du foot tout simplement. Mais le foot de sélection déjà c'est pas le foot de club, donc il faut arrêter de comparer si tu veux les rencontres et les grandes compétitions en sélection avec la Ligue des Champions ou les championnats domestiques. Donc ça c'est la première chose. Après, pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas la même approche, c'est pas le même temps de préparation. Les joueurs, ils jouent dans des dispositifs tous différents dans les clubs, et que en général, dans les grandes nations, là, parce qu'on parle des nations qui excellent, on parle du Maroc, on peut parler du Nigeria hier, on peut parler de l'Égypte, du Sénégal, pour parler de la CAN. Après, en Europe, on analyse le Portugal, l'Espagne. L'Allemagne, l'Angleterre,
l'Italie.
L'Italie, j'en parle même plus parce qu'ils n'existent pas. Et puis en Amérique du Sud, du Brésil et de l'Argentine, qui est championne du monde. Voilà, en gros, c'est ces nations-là qui peuvent espérer faire tourner le compteur à la Coupe du Monde et remporter la Coupe du Monde. Une fois que tu as dit ça et que tu regardes donc sur toutes les nations que je viens de citer, dis-moi le projet de jeu très clair d'une ou deux équipes de ce chapeau-là. Bah franchement, à part l'Espagne, parce que le jeu à l'espagnol, on est habitué, et le modèle de Barcelone a, si tu veux, provoqué un changement de politique. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Mmh. Et c'est vrai qu'on l'a senti au début des années 90. Ça a changé début des années 2000. Pareil, et ils sont dans la continuité. Ils ont réussi à tout gagner comme ça. Ils sont un peu retombés après avoir tout gagné là en
2008, 2010, 2012.
Voilà, c'est ça. Ouais. Après, c'est un peu retombé, et puis là, c'est revenu parce qu'il y a une nouvelle génération et ils forment les joueurs comme ça. Et les joueurs en club, tu le vois, le championnat espagnol, tu le vois, t'es pas surpris. C'est souvent passe-va, du jeu léché, c'est assez spectaculaire, c'est pas tactique, c'est pas fermé, tout ça. Nous, que ça soit en France, où on accueille beaucoup de Marocains, pour rebondir sur les critiques sur Walid Regragui, où les Marocains jouent dans des très belles équipes européennes, voire en Arabie Saoudite, pour le projet sportif, et là, c'est sûr que les structures sont différentes. Donc, Walid, quand il récupère un groupe, déjà, la grande force des sélectionneurs qui gagnent, comme Walid Regragui, comme Didier Deschamps, comme le sélectionneur de l'Argentine,
Scaloni,
le but, c'est déjà de bien faire vivre leur groupe, parce que c'est un laps de temps très court qu'ils passent ensemble, et donc il faut qu'ils arrivent à bien vivre ensemble, déjà le bien vivre ensemble, et après à compléter sur le terrain tactiquement ce qu'ils veulent faire. T'as des entraîneurs, et ils ont vite compris, et Didier Deschamps l'a compris, et je finis là-dessus. Non, je finis là-dessus. Il y a des entraîneurs qui ont identifié comment tu gagnais les grandes compétitions, comment tu les gagnes en ayant un bloc solide défensivement. Tu prends pas de but. Parce que si tu ouvres en sélection, en général, tu te fais rattraper. Et tu le vois, toutes les équipes qui ont fait ça, elles se sont fait rattraper, elles n'ont pas gagné. Bon. Peut-être le seul truc, c'est l'Espagne, avec tout ce que je viens de te dire.
Exemple.
Et je finis juste sur le truc, parce que sinon je suis trop long et Steve ne va pas pouvoir parler.
Mais
ce que je veux dire, c'est que après, la grande phrase, il joue pas bien mais il gagne. Je comprends pas ce mot-là, parce que bien jouer au football, c'est quoi?
Que tu viens de défendre.
Non, bien jouer au football, c'est quoi? Parce que les joueurs dans un dispositif, ils peuvent s'éclater.
C'est d'avoir la maîtrise dans le jeu,
essayer de t'éclater individuellement. Steve. Moi, j'ai l'impression que les joueurs du Maroc, ils s'éclatent à jouer comme ça. Donc arrêtez de critiquer.
Qu'est-ce
que tu
veux rajouter, Steve, avant la parole à la défense?
Que tout simplement, faut pas mettre en opposition l'efficacité et le plaisir, que tout simplement on peut prendre énormément de plaisir tout simplement dans la gagne et simplement dans l'efficacité. Et comme l'a dit Jérôme, il y a une différence entre une équipe de club, donc comme on en a parlé avec Luis Enrique, qui est sur un temps long, et l'efficacité d'une compétition avec une équipe nationale. C'est deux choses totalement différentes, mais dans les deux, on peut se rejoindre sur un truc. Dans le football professionnel, l'efficacité compte, le plaisir, ça vient peut-être après. Moi, je finis juste là-dessus.
Et ben voilà. Parole à la défense, Maître Larquet.
Bon, d'abord, je suis très content que Jérôme ait changé de casquette, mais c'est pas très grave puisque il avait défoncé le
pauvre
Didier Deschamps.
Mais ouais. Et défoncé depuis quand et protégé. Pendant combien de temps? Arrête. Tes accusations.
Laisse-le finir.
Donc si tu te mets en colère, c'est que je dois avoir un peu raison. Mais c'est pas grave. Mais la question, elle n'est pas là. C'est que, d'abord, je vous signale que l'équipe d'Espagne, elle a joué comme elle joue aujourd'hui, bien avant. Dans les années 80, elle jouait comme ça, sous l'impulsion du Real Madrid et surtout du Barça, et elle ne gagnait pas. Donc, c'est bien joué n'est pas un gage de forcément de victoire. Mais moi, je ne me mets pas à la place des joueurs. Moi, je me mets à la place des spectateurs. Et je me mets même à la place.
Bah oui.
Alors je sais pas si JB est supporter d'un club ou pas d'un club.
Bah oui, du Paris
Saint-Germain. Je me mets simplement à la place d'un spectateur qui est presque bon. C'est rare quand ils sont totalement neutres. Mais au prix où maintenant sont les spectacles qui sont que sont les matchs de football. Que ce soit la Coupe du Monde, Championnat d'Europe, on ne va pas revenir sur le prix des billets et tout, ce sont des spectacles. Et messieurs, je suis désolé, mais c'est vrai que je ne pensais pas que Walid Regragui ou que Didier Deschamps fassent exprès de ne pas faire des spectacles, mais ils ont, eux, des priorités.
Bien sûr.
Mais permettez-moi de penser qu'un spectateur qui a dépensé 100, 150 euros, 200 euros ou davantage, ouais, pour aller voir un match de football.
Il a envie de voir du spectacle.
Davantage,
ben oui.
Ils prennent davantage plaisir.
Allez.
À voir un Paris Saint-Germain de la deuxième partie de saison 25-26, ou de la première partie 25, que de la première partie 24-25.
Bah, c'est pas vrai.
Donc
c'est pas vrai.
Allez, le verdict de JB, Jean-Michel, termine rapidement.
Je dis simplement que l'un n'empêche pas l'autre et que gagner, c'est très bien. Et que gagner en donnant du spectacle, c'est encore mieux.
JB, qui remporte ce procès alors?
Merci Jean-Michel, parce que Jérôme a totalement oublié ce qui fait l'importance de la popularité du foot, c'est que le foot est regardé par des gens, et que les gens, qu'ils soient spectateurs ou téléspectateurs, viennent voir du spectacle. Et effectivement, je comprends que Jérôme préfère voir des 0-0 ou des 1-0.
Ah non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Hein.
Plutôt.
Mais c'est pas ce que j'ai dit.
Plutôt que de voir des matchs gagnés par l'équipe de France 5-3, 5-4,
ouais.
on nous a enlevé notre émotion avec la VAR, on n'est plus capable de fêter un but. On nous enlèverait l'émotion et le plaisir de voir.
Ah bah on verra la prochaine fois qu'une équipe perd trois matchs de suite et que tout le monde dira aux joueurs: venez devant la tribune pour vous excuser.
Tu sais, on a perdu 5-4, on a perdu 5-4 contre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations.
En demi-finale.
Ou en demi-finale.
Ouais.
Putain, on s'est régalé, hein.
Et merci JB. Et c'est donc Jean-Michel qui
on perd, mais on joue bien. On perd, mais on joue bien.
Et JB, demande aux Marocains, aux supporters marocains qui suivent la CAN, s'ils gagnent dimanche, ils vont faire la rabat-joie en disant: oh, mais on a mal joué, hein.
Juge impartial.
Et l'Argentine qui a galéré à gagner la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
Allez.
Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont
victoire
mal joué.
Victoire de Jean-Michel Larquet dans ce procès. Rapidement, le handball, c'est la mi-temps entre la France et la République tchèque à l'Euro. Procès, hein. Nicolas Paul Orsi.
La France est devant de 6 buts, 20-14 pour les Bleus dans ce premier match de l'Euro.
Merci Nico. À tout à l'heure. Dans un instant, un invité dans Rotel sans flamme, le tout frais retraité. Mamadou Sakho avec nous, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC, on est là dans Roten sans flamme, les 10 dernières minutes de la première heure de Roten sans flamme avec le Allo Jérôme, et on va recevoir une des légendes du Paris Saint-Germain, Mamadou Sakho. Dans un instant, il est en coulisses et il arrive, vous inquiétez pas, on est avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. Et Benoît, après 19h,
on parlera du Real Madrid. Est-ce que c'est un club inentraînable?
Défaite,
élimination en Coupe du Roi face à Albacete, 17e.
Il a dit que c'était de sa faute, donc ça va.
Ouais. Non, c'est pas la faute des joueurs.
Non, tu perds contre une Ligue 2, mais non.
Allez, un vrai Parisien avec nous tout de suite.
RMC, Roten sans flamme.
Je viens un peu, Varane, la frappe de Evra, elle est repoussée. Ah, oh, t'as les pieds de Van Gundera. Oh non, dans les pieds de Pogba. Oh non, peut-être dans les pieds de but. Et le but, les voilà, les voilà. Le but de Sakho. Le but de Sakho sur la frappe de Ribéry. Mamadou Sakho. Mamadou Sakho.
Mamadou Sakho.
Il a mis le but, je sais pas comment il a mis.
Heureusement, il a pas enlevé son maillot.
Ah ouais, heureusement.
Allô Jérôme.
Mamadou Sakho, capitaine du Paris Saint-Germain à 17 ans, héros de l'équipe de France lors du barrage face à l'Ukraine, qui a annoncé sa fin de carrière lundi soir avant le coup d'envoi du derby PSG-PFC, est en direct dans Roten sans flamme, Jérôme.
Salut Mamad.
Salut, comment ça va?
Salut Mamad, bienvenue.
Bon. Merci.
Meilleurs vœux, hein, Mamad, hein, déjà. Hein.
Merci beaucoup à vous aussi.
Écoute, bon. La santé à la famille et à toi. Mamad, t'as annoncé ta retraite. Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que c'est sur un coup de tête? Et comment tu vis depuis que t'as annoncé ta retraite?
Non, bah c'était pas sur un coup de tête. J'essaie toujours d'anticiper les choses, hein, dans ma humble carrière. J'ai eu la chance de pouvoir vivre de ma passion pendant pas mal d'années. C'est vrai qu'il y a 3-4 ans, j'ai commencé à préparer l'après en créant donc du coup mes sociétés basées aux Émirats, donc Sakho Properties, hein, qui a pour but avant tout d'accompagner les sportifs de haut niveau pour préparer leur après carrière en investissant dans l'immobilier. Et puis voilà. Ensuite, j'ai après mon aventure à Montpellier, j'ai joué un an en Géorgie. J'avais 2 ans de contrat, mais vu que mes boîtes, j'allais dire, prenaient un peu plus d'ampleur, donc j'ai décidé de raccrocher sereinement, tranquillement, en étant fier du parcours.
T'as raison. En gros, t'es gavé, c'est pour ça que t'as arrêté. Voilà. Bon, bah, c'est très bien. Non, je plaisante.
Non, c'est même pas gavé, c'est juste que voilà, j'ai réellement conscience de la chance que j'ai pu avoir de vivre de ma passion pendant 19 ans. Ouais. J'ai voulu faire 20 ans, mais voilà, quand j'ai lancé mes boîtes l'année dernière, par la grâce de Dieu, ça se passe très bien. Donc voilà, moi j'aime faire les choses bien et rester focus. Donc
Mamad,
voilà.
Mamad, l'hommage rendu par le Paris Saint-Germain, j'imagine, t'as fait énormément plaisir, toi, le titi parisien, celui qui est fier d'être parisien. Comment t'as vécu ça aussi? J'imagine qu'il y a beaucoup de remerciements par rapport au Paris Saint-Germain là-dessus.
Bien sûr, je l'ai vécu. Ouais, j'étais honoré. Après, comme je dis, on vient tous de quelque part. Moi, c'est Paris, c'est la capitale. Je représente la capitale et sa banlieue, et c'est aussi une fierté de pouvoir sensibiliser et surtout montrer un petit peu le chemin à la nouvelle génération. De se dire que voilà, on peut venir des quartiers de Paris et atteindre son rêve. Et voilà, pouvoir jouer au Parc des Princes, pour moi, c'était quelque chose dont je rêvais dès mon plus jeune âge. Et aujourd'hui, pouvoir annoncer officiellement lors du match, en plus, PSG Paris FC, sachant que j'ai commencé au Paris FC entre mes 7, 8 ans jusqu'à mes 12 ans, et j'ai été repéré au Paris FC. Et donc, c'est pour ça que je dis, sans le Paris FC, pour moi, le PSG n'existe pas dans mon histoire de vie, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, j'étais très fier de pouvoir l'annoncer, surtout devant ma mère, hein, qui est encore là, et j'ai pas la chance. Enfin, j'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans.
Ouais, c'est vrai.
Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui était cool à vivre. Et merci aux supporters, merci au club, merci à Nasser, merci à tous les coachs que j'ai pu avoir pendant toute ma formation. Et c'est ce qui
ils m'ont permis. Puis tes adversaires aussi, Mamad.
Alors vas-y, Steve, justement.
Puis tes adversaires, Mamad. Ouais. Bah Mamad, moi j'ai fait son premier match en tant que capitaine du PSG.
Ah, c'est vrai, c'était à Valenciennes,
ouais. Parce qu'il voulait repartir avec les Titi. Et moi, je me rappelle, j'étais un joueur qui était quand même beaucoup plus vieux que lui. Et je vois arriver cette équipe et ce capitaine avec ce regard. Et je dis, on va se faire déglinguer par des jeunes.
Ce qui
et on avait fait 0-0, ça avait été très dur. Et je crois que t'avais fait un peu courir quand même, un petit peu quand même, même malgré mon âge quand même.
C'est vrai que tu m'avais donné un peu de fil à retordre. Mais non, c'est vrai que c'était un moment sympa. Et surtout que que nous, on avait été champion de France l'année d'avant, des moins de 18. Bon, j'étais.
Et t'avais toujours ta voiture sans permis à ce moment-là ou pas?
Exactement, exactement. J'avais ma voiture sans permis.
Elle faisait du bruit, la voiture, je te confirme.
La teuf.
Je suis arrivé dans le groupe professionnel avec une humilité vraiment très très simple. Je suis tout jeune, je suis mineur, donc je viens en voiture sans permis pour éviter de venir avec un chauffeur, etc.
Mamad, à l'époque, t'avais la voiture sans permis qui coûtait le plus cher au monde.
Bah, remarque, Jérôme, toi aussi, t'as
été mis dans les jantes.
Ah, c'est vrai.
Jérôme, toi aussi, t'as mis la voiture sans permis.
Oui, mais pour une autre raison. Ouais. Et un autre âge.
Ouais. T'es pas obligé de le dire, ça, Mamad.
Bon. Mamad, on est obligé de te parler de ce souvenir incroyable qu'on a tous, un souvenir commun. On entendait Jean-Michel au commentaire. On peut d'ailleurs lancer Jean-Michel sur son souvenir. France-Ukraine 2013. Tes deux seuls buts en équipe de France, mais qu'est-ce qu'ils ont été importants. 29 sélections, cette victoire 3-0. Jean-Michel, tu t'en souviens comme si c'était hier de se doubler de Mamadou Sakho au Stade de France?
Ah oui, parce qu'il venait de nulle part. Il y a eu des doublés comme ça dont on se souvient. Celui-là, on s'en souvient. Alors, la question essentielle, Mamad, c'est est-ce que tu l'as marqué de la rotule ou d'autre chose?
Non, je l'ai marqué du genou.
Ah, du genou. Okay.
Ouais, le genou, c'est la rotule. Hein,
c'est ça. Ouais, je l'ai marqué du genou. Mais en fait, cette victoire-là, après la défaite du match aller, vous pouvez demander à tous les joueurs, au vestiaire, le lendemain, j'ai dit, les gars, je vais aller au Brésil. On va aller au Brésil, peu importe la manière, on va y aller. Impossible de laisser l'équipe ukrainienne aller au Brésil, c'est que nous, on est en vacances. Donc en fait, on avait une détermination qui était juste sans faille. Et ce jour-là, c'est vrai que j'avais un regard assez dur, déterminé, mais j'avais un regard de guerrier. C'est tout. J'étais sûr de moi. J'étais sûr de nous. J'étais sûr du public, et c'était à la maison, et pour moi, voilà, on pouvait pas nous retirer cette Coupe du Monde chez nous, c'était pas possible.
Et dans la préparation, alors tu vois, peu importe, je sais pas si tu te rappelles de la préparation du match par l'entraîneur, mais est-ce que c'est vous qui vous êtes pris en charge ou bien
comme très souvent avec Didier Deschamps.
C'était les deux. Non, franchement, c'était les deux. Après, c'est vrai qu'il y a eu. C'est là où on a vu les joueurs qui en avaient, les joueurs de caractère, tout simplement. Et ça a commencé à l'entraînement deux jours avant, quand il y avait une conservation et que j'ai commencé à mettre pas mal de tacles. Certains joueurs disaient mais doucement. Je me suis tourné, j'ai commencé doucement.
Ouais, c'est pas le moment d'y aller doucement.
Vendredi, ceux qui sont pas prêts pour mardi, je crois que c'était mardi, ils le disent tout de suite. En fait, les gars, ça va être la guerre et il faut commencer maintenant. Donc, voilà,
combien de buts tu as marqué dans ta carrière, Mamad?
Franchement, je ne compte
deux.
Pas.
Arrête de lui faire le
mot. Non, je plaisante. Mamad, moi j'ai une question pour toi, Mamad, parce qu'il y a une autre image marquante dans ta carrière quand on y repense. C'est le premier adieu au Parc des Princes avec ses larmes incroyables quand tu signes à Liverpool. Toi, tu l'as connu, ce PSG en difficulté. Tu as aussi connu le début du PSG version Qatari. Est-ce que ça fait partie des regrets de ta carrière de te dire j'ai dû quitter ce PSG, j'aurais pu rester et gagner de grands titres avec mon club de cœur?
Très sincèrement, aucun regret. Aucun regret. Le choix, je l'ai fait en âme et conscience. Le PSG m'a proposé de prolonger mon contrat à cette époque-là, avec 4 ans ou 5 ans par la suite. Non, je ne regrette pas. D'ailleurs, je suis en train de préparer un documentaire où je raconterai un petit peu toute ma carrière. Mais non, le choix, à ce moment-là, je ne le regrette pas du tout. J'ai eu la chance de pouvoir gagner tous les titres avec le Paris Saint-Germain, sauf la Ligue des Champions. Et c'était mon objectif, la Coupe de France, le championnat, etc. Donc, aucun regret. Ouais. Je suis parti fièrement. J'ai joué fièrement pour mon club, pour ma ville, devant tous mes amis et devant toute la capitale. Donc non, franchement, aucun regret sur tous mes choix.
Bon, de toute façon, tu peux pas avoir de regret quand tu signes à Liverpool, à Anfield, avec l'ambiance, le club qui est représenté comme ça en Angleterre. Franchement, c'est compliqué avec tout ce que tu avais accompli déjà au PSG. Donc c'est normal que t'aies pas de regret. En tout cas, t'as pas à en avoir.
En tout cas, pour ma part, oui. Après, voilà, il y a d'autres joueurs qui avaient joué dans d'autres clubs et ils sont venus au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai fait le chemin inverse. J'ai commencé au Paris Saint-Germain et, comme tu as dit, Jérôme, j'ai eu la chance de pouvoir jouer à Liverpool aussi, qui est l'un des plus gros clubs d'Europe. Ah, et pareil, j'ai vécu des moments exceptionnels là-bas. Donc, très très fier de ma carrière et le message vraiment que je veux faire passer aux plus jeunes, c'est de se dire que rien n'est impossible, parce que jeune, j'avais tout pour ne pas réussir. J'ai vécu dans la rue, j'ai vécu dans des détente, j'ai fait la manche, etc. Donc j'avais pas de contact, j'avais rien. Mais quand j'ai eu l'opportunité d'intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain, je me suis accroché, j'ai travaillé dur, j'ai écouté et au final, j'ai eu la chance de pouvoir faire la carrière que j'ai faite. Donc voilà, vraiment rien n'est impossible. Vivez vos rêves à fond, travaillez, allez à fond dans votre secteur et voilà. Et à la fin, vous avez rien à regretter.
Exactement, Mamad. Donc c'est un beau message et je tiens vraiment à te féliciter de ta carrière parce que tu peux en être fier comme tu l'as dit. Elle était magnifique et nous on s'est côtoyé un peu dans le vestiaire aussi donc voilà, toujours un moment particulier quand il y a un mec avec qui tu as partagé des moments de vestiaire qui s'arrête. Ben non, parce que c'est un moment important dans une vie. La carrière de footeur représente énormément de choses et la plus grande partie de ta vie, donc bravo et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci Mamad, à bientôt.
Merci à toi aussi, hein, parce que quand on est arrivé dans le vestiaire à l'époque, je me souviens, je crois que je te l'avais dit, quand je suis arrivé dans le vestiaire, j'ai vu Jérôme, mais je sais pas, au début, j'étais pas trop fan, tu vois, je me suis dit, peut-être que c'est un mec un peu relou. Non, mais c'est vrai. Et après, franchement, j'ai passé des saisons exceptionnelles avec lui. Je sais pas, je t'ai embrassé, je t'ai dit, tiens, Jérôme, au début, toi, je sais pas pourquoi, tu sais, j'avais un a priori sur toi. Mais franchement, c'est un mec en or, donc reste comme t'es.
C'est gentil, c'est
prends soin de la famille.
Pas trop ma base quand même.
Ouais, c'est gentil,
ma base. C'est sincère.
Toi, t'as changé d'avis. C'est pas le cas de tout le monde.
Merci, ma base.
Merci, ma base.
Allez, je t'embrasse. Bisous.
Ciao. Merci à Mamadou Sakho, un grand moment. Allez réécouter ça si vous avez loupé le début.
Surtout la fin. Remettez-vous la fin, c'était magnifique.
Allez, on parle du Real Madrid dans un instant. Est-ce que c'est un club inentraînable? 32-16, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
RMC 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
Vous êtes bien dans Roten sans flamme sur RMC. La deuxième heure, c'est maintenant avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. On a passé une excellente première heure. Merci Mamadou Sakho de nous raconter l'histoire de sa carrière un petit peu, les grands souvenirs, surtout le féliciter. Tout ce qu'il a amené au football. Eh oui, oui, il a amené des bonnes choses et bravo et à bientôt parce que il interviendra de temps en temps dans Roten sans flamme. C'est sûr. Bah oui, on l'appellera.
Bah, notamment pour la Coupe du Monde. Lui, il connaît très bien l'équipe de France.
Ah bah oui.
Le handball, l'Euro qui démarre pour l'équipe de France face à la République Tchèque à Oslo. Nicolas Paul Orsi.
Il démarre très bien cet Euro, 38e minute, plus 10 pour la France. Hein. Oh, on a eu une fin de mi-temps un peu difficile. Ça note quand même, ça montre le bon début de compète des Français, Jérôme, parce que la République tchèque, c'est pas n'importe qui, hein, oui, sur l'échiquier du Euro. Plus 10 à la 38e minute. Je ne te dis pas qu'on va être champion d'Europe, mais en tout cas, on est sérieux. On est sérieux. Ouais. Plus 10.
C'est quoi 27, la dernière perf de la République tchèque en.
6e.
6e de l'Euro. C'est pas mal.
Quand même,
ouais, c'est pas mal.
Bah, sur 8, ouais, c'est pas mal.
Bon, Nico.
Bah, c'est une équipe un peu rajeunie, mais leur mettre 10 buts au bout de 38 minutes, c'est sérieux.
On reste avec toi. Le quiz à 19h45, la carte cadeau de 100€ à valoir chez Maison Scarlett, marque française de fabrication de boîtes à montres et boîtes à bijoux. Si vous voulez vous inscrire, 32-16 touche 4 au quiz par SMS au 7-32-16. Magnifique Jérôme hier qui s'en est sorti sur une balle de match. C'était complètement dingue.
Surtout, c'est la routine qui m'a fait gagner.
C'était fou. À 19h30, le Maroc a-t-il fait le plus dur? On sera avec Younes Belhanda, ça sera la VAR, le Maroc qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique. Mais tout de suite, parlons du Real Madrid.
Maroc.
Attention, Roten sans flamme s'inquiète pour les Madridais.
J'ai inversé pas mal de tendances dans ma carrière. À moi de travailler, de progresser pour gagner tous ces titres majeurs.
C'est terminé la Super Coupe d'Espagne. Et pour le FC Barcelone face au Real Madrid.
T'as le poids de l'institution, t'as le poids des trophées. On l'a vu lors de sa présentation au stade Bernabéu.
C'est pas Xabi Alonso le problème, c'est Mbappé. Toujours lui, toujours son ego. On a foutu l'équipe en l'air pour lui. Et regardez le résultat.
Uno, dos, tres, à la Madrid.
Quand tu rentres dans le club, quand tu rentres dans les infrastructures, tu peux sentir la puissance de ce club-là.
Le Real Madrid tombe face au 17e de deuxième division.
T'as prévu de vivre à une fin de match tranquille et puis patatrac.
Le mal ne s'appelait peut-être pas Xabi Alonso.
Non, ça me rend pas fou, ça me rend triste.
Le séisme était institutionnel.
Ce club est-il inentraînable?
Estoy muy, muy feliz et orgulloso de hablar contigo, vraiment.
Vraiment avec l'accent espagnol, merci du gars. Cette sacrée claque reçue par le Real hier soir, l'élimination en 8e de finale de Coupe du Roi à Albacete, 17e de deuxième division, défaite 3-2. Il y avait de nombreux joueurs cadres absents, notamment Mbappé, Courtois ou encore Tchouaméni. Première sur le banc madrilène du nouveau coach Alvaro Arbeloa, successeur de Xabi Alonso, licencié lundi. Eddie Jackpot est là, Edgar Grollo, dans Rotten Sans Flamme, notre correspondant en Espagne. Salut Edgar. Messieurs.
Comment ça va?
Ravi de te retrouver. On embrasse ton papa qui nous écoute tous les jours.
Très souvent.
Il entend Edouard, il entend n'importe quel prénom qui t'est donné.
Même lui, c'est plus maintenant.
Bon, Edgar, quelles sont les raisons exactes du départ de Xabi Alonso? Explique-nous toute cette histoire déjà.
Alors, la raison numéro une, c'est avant tout qu'il a jamais réussi à convaincre l'entièreté du vestiaire. Alors, il y avait des joueurs qui étaient derrière lui, mais d'autres qu'il n'a jamais réussi à convaincre. Et dès les premières semaines, tout le monde l'a compris quand Vinicius Junior est sorti lors du Classico fin septembre et qu'il avait dit « Pourquoi c'est toujours moi ? Je vais quitter le club, etc. » Ça avait fait polémique. Et à ce moment-là, tout le monde a compris qu'il y avait un petit peu une dissonance dans le vestiaire, que certains cadres n'étaient pas complètement convaincus par leur entraîneur. Et donc, ça crée des tensions. Ce qui lui est reproché quelque part, c'est un problème de management, ou en tout cas une grosse différence de management par rapport à ce que faisait Carlo Ancelotti, qui était un petit peu tout l'inverse, c'est-à-dire presque dans le rôle du papa par rapport aux joueurs, extrêmement chaleureux, extrêmement proche d'eux, qui leur laissait énormément de liberté. Xabi Alonso, il arrivait avec des idées très fortes, avec peut-être une communication un petit peu plus froide, et ça n'a pas plu à tous les joueurs. Ça s'est vu après dans le résultat. Puisque forcément, quand t'as certains cadres qui ne suivent pas, le jeu ne suit pas. Et quand, 6 mois après ton arrivée, tu n'as pas de résultat dans le jeu, forcément, derrière, c'est compliqué de continuer. Et il n'avait pas le soutien de toute la direction du Real Madrid.
Reste avec nous, Edgar. Rotten se chauffe. Est-ce que le Real est un club inentraînable? 32-16. Jérôme.
Bah, c'est pas un club inentraînable. Je pense que les hommes qui sont en place au Real, qui ont le poste d'entraîneur, ils essayent de créer une dynamique de groupe. Carlo Ancelotti l'a très bien réussi. Avant, Zinedine Zidane l'a très bien réussi aussi, 2 fois de suite en plus. Donc, comme quoi, c'est possible d'entraîner correctement le Real Madrid, mais c'est toujours pareil. On en revient à la construction de l'équipe, du groupe. Est-ce qu'aujourd'hui le Real est une équipe pour tout gagner? Non. Voilà, la réponse, elle est très claire. Alors, ça fait pas plaisir à certains.
Mais rien que ça, c'est fou, déjà.
Non, mais ça fait pas plaisir à certains. C'est sûr, dont Kylian Mbappé fait partie. Mais ce que je veux dire, c'est que à part Kylian qui marque beaucoup de buts, à part Vinicius qui était sur le toit de l'Europe, qui a failli gagner le Ballon d'Or, ouais, qui est moins bien depuis, on est d'accord.
C'est plus lui, hein.
Non, mais d'accord, c'est plus lui. Mais sauf qu'il a tellement atteint un niveau stratosphérique
que Barcelone, il a maintenu un semblant de suspense quand même.
Voilà, ouais, donc ça reste un joueur, ça reste un joueur, Benoît, même si on a du mal à le voir sur la constance et il est beaucoup moins régulier qu'il y a 2 ans, un joueur qui a énormément de talent. Donc je vais pas aller te dire que avec Vinicius, tu ne peux pas gagner la plus belle des compétitions, ou gagner le championnat, ou gagner la Coupe d'Espagne, ou gagner la Supercoupe. Tu vois, ce que je peux te dire avec ces joueurs-là, bien sûr que tu peux gagner, mais le reste de l'effectif, moi quand je vois la défense du Real, je me dis que c'est une défense d'un bon club, voilà, mais pas d'un club à la hauteur du Real Madrid. Le milieu de terrain du Real Madrid, il y a des bons joueurs, mais c'est des bons joueurs. C'est pas parce que tu as gagné la Ligue des Champions, pour certains, il y a 2 ans, en ayant un rôle... Alors j'aime pas ce parce qu'ils jouaient, et certains jouaient, mais un rôle mineur dans la façon de gagner du Real. Mais la dernière Ligue des Champions pour les plus jeunes là, pour se rafraîchir un petit peu. La dernière Ligue des Champions gagnée.
La dernière, c'était contre la Juve, non? Le jeu contre la Juve.
Mais oui, exactement.
Un énorme Vinicius, un très bon Courtois.
Et ben voilà. Et ben écoute, ils ont gagné avec beaucoup de réussite, mais au moins ils l'ont gagné la Ligue des Champions. Attention, moi je le retire pas.
Oui.
Mais sauf que le bilan de cette saison qui était fantastique en gagnant la Ligue des Champions, il a été fait moyennement. Ce que je veux dire, le bilan de Florentino Pérez, en essayant de nous faire croire que avec ce milieu de terrain là, sans Modric, sans Kroos. Parce que Kroos est parti en premier, mais après c'était Modric. Sans ces joueurs-là, qui sont des joueurs stratosphériques, et l'ont montré, et en mettant les milieux de terrain et la défense qu'on a aujourd'hui, tu ne peux pas lutter avec les meilleures équipes. Et donc t'es pas à l'abri de te faire attraper contre une D2. Albacete, qui est 17ème de D2. T'es pas à l'abri de te faire attraper à domicile contre un Murcie ou je sais pas quoi. T'es pas à l'abri avec cette équipe-là. Barcelone est à l'abri. La preuve, Barcelone, c'est une grande équipe avec des grands joueurs. Ouais. Le Real, ils n'ont pas assez de grands joueurs aujourd'hui.
Jean-Michel.
Ça fait peur. La situation dans laquelle se trouve le Real fait peur. D'abord parce que
la saison, elle est morte. Hein. C'est cuit.
Ah bah oui, c'est compliqué.
Là, il n'y a plus que le championnat et la Ligue des Champions.
La Coupe d'Europe, c'est cuit. Et la Ligue des Champions, ça va pas bien du tout. Mais ce qui fait peur...
Alors, ils sont top 8 hein, pour l'instant.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. Ils sont pas
top 8,
quand même.
Même s'ils sont loin d'être favoris, ils sont quand même top 8.
Regarde les équipes contre qui ils ont gagné. Ça veut dire beaucoup sur le niveau.
Bien sûr qu'ils sont en dessous de leurs rivaux.
Parce que la situation a été meilleure les années passées, sans regarder très loin. Ce qui est certain, c'est que la saison est carbonisée, est cuite. Mais ce qui fait peur, c'est que on s'imaginait quand même que un club comme le Real Madrid était à l'abri d'un trou d'air tel que celui qu'ils sont en train de vivre actuellement. Ouais. Honnêtement, je ne pensais pas qu'ils pourraient tomber aussi bas parce que il y a la façon dont ça se passe, parce que le trophée contre le Barça, là, je vous ai dit, il y a eu un semblant de suspense, mais la supériorité du Barça était...
Ouais. C'est monumental.
C'est malheureux.
Comme l'année dernière, c'est pareil.
C'était à pleurer pour le Real. Et donc, je pense, et je le dis depuis quelques semaines, le Real, aujourd'hui, s'est perdu au niveau de l'équipe sur le plan du football et s'est perdu au niveau de la direction. Alors, je ne sais pas si, à un moment ou à un autre, quelqu'un aura le pouvoir et la puissance pour dire au président qu'il faut qu'il se recentre sur l'essentiel, mais à vouloir ferrailler à droite et à gauche avec le président du Barça, le président de la Ligue, le président Fédé, le président de l'UEFA, et ceci et cela. Mais ils sont en train de se perdre. Ce club est en train de se perdre. Alors, je pense que c'est une mauvaise période, mais je n'imaginais pas que le Real puisse avoir un trou
comme ça,
qu'il est en train de vivre.
Steve.
Déjà d'une, en championnat, c'est pas mort. C'est pas mort.
Ils sont à 4 points. Mais
4 points. La Ligue des Champions, ils sont bien placés.
Est-ce que tu les vois, toi, être champion d'Espagne?
Je t'ai pas dit ça, mais tu te rappelles, il y a des fois quand même, le Real.
Parce que Bernard Béhou, il va siffler, là.
Bernard et Béhou. On les a pas vus bons certaines saisons et ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont déjà gagné la Liga. Ça, c'est quand même
le caractère des très grosses équipes et des
très gros clubs. Maintenant.
Mais ils avaient d'autres joueurs.
On va mettre les pieds dans le plat. Le club a été déstabilisé avec la gestion de l'arrivée d'Mbappé. On va pas se mentir, c'est comme ça. Tu regardes Vinicius, c'est perturbé. Je dis pas que
c'est dur ce que tu dis.
Ce que je veux pas dire, c'est pas l'arrivée de Mbappé simplement qui a déstabilisé le club. Je te le dis, moi c'est ce que je vois.
Bravo d'avoir les couronnes.
C'est pas à cause de Mbappé que
c'est pas ce que je te dis. Et je te parle pas de Xavi.
Il a marqué autant de buts, Mbappé.
Non, mais c'est pas ça que je veux dire. En faisant venir Mbappé, ils n'ont rien construit autour. Alors qu'ils ont fait venir Mbappé pour un projet Mbappé. Et c'est là, en fait, et c'est pour ça que je te dis que c'est pas de la faute d'Mbappé. C'est l'arrivée de Mbappé qui a déstabilisé parce qu'ils ont rien construit autour de lui.
Mais est-ce que Kylian voulait qu'il recrute? Peut-être que Kylian a dit non, vous recrutez pas.
Tu regardes, je vais les faire gagner. Ça a été le bordel, ça a été le bordel en termes d'ego. Ça a été le bordel sur la course au ballon d'or. Ça a été le bordel pour tirer les pénalties. Ça a été le bordel pour tirer les coups francs. Alors que Mbappé, t'aurais dû le mettre en tant que numéro 1. Non, mais il fallait le mettre en tant que numéro 1.
C'est ce qui a vite été fait quand même, Steve. Hein. Ouais, c'est vite devenu l'homme à tout faire.
Ouais, mais tu sais très bien que ça a toujours créé avec Rodrigo, avec Hendrik. Ça a été très compliqué. Après, il y a eu la gestion des départs de Modric dans le milieu de terrain. Ça a mal été géré. Alors, je parle même un peu avant avec Kroos et tout ça. En fait, le Real, ils ont pris Mbappé pensant que lui allait tout résoudre. Il le résout partiellement. Parce que quelque part, il marque énormément de buts. Mais c'est là d'où sa très grande qualité. Maintenant, c'est que il faut qu'ils construisent une équipe pour Mbappé, mais comme ça a dû être créé à une certaine époque, par exemple pour Cristiano Ronaldo, on l'a dit à Benzema, toi t'es numéro 9, tu fais des passes à Cristiano Ronaldo, tu te mets au service du collectif. Et en fait, C'est pas, ils ont pas accumulé des stars. Ils ont fait venir un énorme joueur, mais ils n'ont pas construit une équipe autour de ce meilleur joueur.
Ce qui nous
et c'est là, en fait, le vrai problème. Edgar, c'est pas Mbappé le problème. C'est de ne rien avoir construit autour de lui et de lui avoir finalement donné les clés du camion.
Ce qui nous fait peur, c'est déjà le discours après une seule défaite de Arbeloa, hein, qui se couche derrière ses joueurs et qui dit, Arbeloa, ah non, mais c'est de ma faute, c'est mes choix, eux, ils y sont pour rien. Arbeloa, j'ai vu un grand Vinicius.
De toute façon, Jérôme, on peut y aller, il écoute pas RMC, Arbeloa.
Ah, méfie-toi.
Bah, mais, et d'ailleurs, il y a un tête plus gagnant, Arbeloa, je te le dis tout de suite.
Du tic-tic-tic.
D'ailleurs, messieurs, laissez parler. Vous avez parlé de la direction. Vous avez parlé de la direction et de la responsabilité, peut-être, de Florentino Pérez. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2006, Florentino Pérez, il avait démissionné. Et il avait expliqué sa démission en disant, j'ai peut-être mal éduqué les joueurs. C'est-à-dire, il les a habitués, en fait, à avoir trop de liberté, et à se sentir peut-être un petit peu au-dessus. C'est pour ça qu'il avait démissionné. Et certains supporters du Real aujourd'hui craignent voilà,
que ça soit le cas,
peut-être en train de faire refaire la même erreur en laissant peut-être trop la main aux joueurs parce que Arbeloa est arrivé effectivement il a donné des excuses à Vinicius.
Edgar, l'équipe du Real 2003, 2004, 2005, 2006, t'as vu le vestiaire, toi, t'as vu les joueurs qu'il y avait.
Ouais, il y a Bellingham, Vinicius.
Écoute, Mbappé. Quand je les ai mis dans ma poche sur le match aller-retour avec Monaco, je peux dire qu'il y avait, des ballons d'or.
Mais toi, à chaque fois,
c'est toi qui a provoqué la démission de.
J'ai bien peur. J'ai bien peur que je sois un des responsables. Mais
la plus grande émotion de Jean-Michel en tant que commentateur. C'est vrai.
Mais n'empêche, blague à part, que Pérez, il est forcément responsable. Déjà parce que tu dois donner, quand tu donnes les pleins pouvoirs à l'entraîneur, alors moi j'en veux un petit peu à Xabi Alonso parce qu'il est venu avec plein d'idées, avec un beau discours, ils vont courir, ils vont ceci, ils vont cela, et puis en fait il arrête. Mais qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Mais écoute, s'il a les clés.
Mais si les joueurs répondent pas, qu'est-ce que tu veux faire?
Mais comment? Si les joueurs répondent pas. Mais franchement, je vais te dire, dans le vestiaire, là, on a cité.
Jérôme, c'est pas les joueurs qui répondent pas.
À part trois joueurs, trois ou quatre joueurs qui peuvent se prendre pour des stars parce que c'est des joueurs de très haut niveau. Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham.
Ouais, Vinicius pas tout le temps.
Dans ces joueurs, Courtois dans les buts.
Ouais. Bah, Courtois, c'est extraordinaire aussi.
Non, mais après. Rudiger. Franchement, arrêtez de me dire que le reste, ils peuvent se prendre pour des stars. Les quatre joueurs là, oui. Donc le reste, si l'entraîneur leur dit, hey, les gars, vous courez, vous faites ça, tu joues pas, tu vas pas jouer. Écoute, si tu veux pas faire tu joueras pas. On va mettre des jeunes et les jeunes ils seront peut-être pas rendez-vous. Le problème, c'est que là, il faut être soutenu par la direction, faut être soutenu par ton entraîneur, parce que ça. Ça amène forcément des résultats irréguliers. Ouais. On est d'accord. Sauf que il a voulu sauver sa petite face en se disant on va gagner des matchs parce que bien sûr qu'avec ces joueurs-là, il y a des matchs en Liga, on le voit. Hein. Steve, tu le disais, ils sont pas largués en championnat, ils sont à 4 points de Barcelone.
Ouais, mais bon, dans la façon
de jouer, de toute façon, je te le disais tout à l'heure, avec ces joueurs moyens, parce que pour moi, il y a trop de joueurs moyens au Real, ils peuvent avoir des piqûres de rappel à domicile contre des équipes qui jouent le maintien.
Et ça
c'est sûr, il y a aucune sûreté si tu veux sur les résultats du Real et c'est ça qui est inquiétant.
Kader avec nous au 32-16, supporter du Real, Jérôme.
Salut Kader.
Salut Kader.
Salut tout le monde.
Bienvenue Kader.
J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je suis pas passé sur la radio.
C'est vrai.
J'ai entendu parler du Real Madrid. Ouais. Là, je suis d'accord avec Jérôme sur certains trucs. Bah oui, franchement, ce qu'il dit Jérôme, c'est logique.
C'est fluide et logique.
Voilà. Moi, je le dis déjà, franchement, ça fait
un petit moment les auditeurs
que ça dure.
Oui.
Depuis l'arrivée de Mbappé, pour moi, Mbappé, il a fait son taf. Mbappé, il vient, il marque. Je suis désolé. On l'a ramené pour marquer des buts. On l'a ramené pour défendre.
Exactement.
Donc le travail, il est fait. Maintenant, Vinicius, depuis l'arrivée de Mbappé, depuis qu'il n'a pas gagné le Ballon d'Or, on a vu un autre Vinicius. C'est plus le même.
C'est vrai.
Donc Vinicius qui dit Vinicius. Ah,
pourquoi Jérôme tu dis que Kader a raison et quand c'est moi qui parle il a
mais Kader a raison sur les stats, Kader il vient de te le dire. Vinicius tu vas pas critiquer le talent de Vinicius quand même. Non mais Vinicius c'est un phénomène quand s'il a la tête alors
c'est pas un phénomène alors.
Ben si, s'il a la tête,
Mbappé, c'est un phénomène.
Mais Vinicius c'est un phénomène, il aurait dû avoir le ballon d'or il y a 2 ans.
Il est trop
sur
court.
Hier il a pas fait un match de phénomène
Jérôme. Ballon perdu, je crois.
C'est un des joueurs qui est quand même censé le plus rebondir avec le changement de coach, parce qu'il est quand même à l'origine de la polémique.
Edgar, je suis d'accord avec toi, je te parle sur le talent du joueur. Le joueur, il a tellement excellé il y a 2 ans que le niveau. C'est pour ça que c'est décevant, et vous avez raison. Et il faut le dire quand il n'est pas bon, parce que c'est le cas en ce moment.
Il est souvent pas bon.
Mais il est souvent pas bon, sauf qu'il a atteint un certain niveau, il ne l'a pas atteint par hasard. Il y a plein de joueurs qui auraient aimé atteindre ce niveau-là, mais qui ne peuvent pas.
Et pourtant, il met tout. S'il n'est pas bon 3 fois sur 4, quel intérêt pour le Real?
Mais alors comment il a fait il y a 2 ans la saison incroyable?
Il était seul.
Il y avait Bellingham qui était plus haut. Il y avait Bellingham qui.
Oui, vas-y, attends, laissez parler.
Vas-y, Kader.
Oui, Kader. Moi, c'est intéressant. C'est pour ça que je vous dis, Jérôme, il a raison sur certains trucs.
Ah, oui.
Maintenant, Vinicius, il était bon, mais je vous dis, depuis l'arrivée d'Mbappé, c'est plus le même Vinicius.
Ben
donc,
oui.
Qui dit Vinicius dit Rodrigo, dit Bellingham, parce que bon, c'est un groupe. Et s'il lève le pied, Vinicius, que ça lui plaît pas et tout, donc les autres, il y a plein de joueurs qui vont suivre. Et vu qu'on a des joueurs bien, comme il a dit Jérôme, c'est pas du top comme avant ce qu'on avait au milieu de terrain, Modric, Casemiro, Kroos au milieu. Ouais. Les Ramos, les Pépé,
les abus, ceux-là.
Donc voilà. Donc on a. Et franchement, il y a autre chose aussi. Moi, je mets le président Florentino Pérez. Pour moi, c'est le numéro. C'est lui le plus responsable. Pourquoi? Parce que là, franchement, on a un président déjà qui fait rien. Là, il voit les choses et il laisse faire. Donc Florentino Pérez, il y a un moment, wesh. Il faut gérer ça aussi. Il faut gérer le vestiaire. Là, franchement, on voit un président. Franchement, pour moi, il est devenu dictateur. Ça veut dire le mec, il fait tout. Il choisit les joueurs. Il choisit. Franchement.
Après, il y a toujours une politique de star au Real Madrid. Oui, et certains entraîneurs s'en sont sortis. Tu vois, c'est compliqué de lui reprocher des choses avec tout ce qu'il a fait au Real.
On vient de te dire, il y a pas assez de stars ou de joueurs de très haut niveau.
Pourquoi tu les traites comme des stars alors? C'est quoi l'histoire?
Mais parce qu'ils y ont cru. Il est là le problème. Ils ont cru que la Ligue des Champions gagnée il y a 2 ans.
Voilà.
Ils ont
été difficile de leur faire croire que c'était des stars. Hein. Là, il y a le terrain était favorable.
Non, mais... Ouais, mais d'accord. Mais c'est le rôle du club et de l'entraîneur aussi.
Regarde, je vais pas. Et Jean-Michel,
merci Kader,
c'est son ami. Mais les Français, par exemple, Tchouaméni.
Oui.
Camavinga. Pour parler des deux Français, ils ont gagné la Ligue des Champions, donc ils peuvent te dire, écoute, moi, mon coco, tu sais, je joue au Real Madrid dans la meilleure équipe, j'ai gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous allez me critiquer?
Encore que Tchouaméni, il y a bien plus mauvais que cette saison.
Non, mais bien sûr. Non, mais attends, ce que je veux dire, il y a bien plus mauvais, et c'est pour ça que, au lieu de jouer au milieu de terrain, il joue derrière, tellement il est bon au milieu, et qu'il manque au milieu.
Cette saison, il joue au milieu de terrain.
Ben oui, merci.
Et tellement il est bon, on le voit dans la structure des
équipes. C'est un créateur hors pair.
Arrêtez, je veux pas retomber là-dedans. Merci. Merci. Kader d'être venu, merci à Edgar.
C'est vrai que Jean-Michel il invente des passes quand même. Hein.
Allez, le handball avec le
passe aveugle, la passe aveugle.
La passe aveugle, il la maîtrise bien.
Et on embrasse ton papa et on lui dit de
rester un fidèle
auditeur de Rotten sans flamme. Ouais. La France face à la République tchèque, la fin de match, l'entrée en liste des Bleus à l'Euro à Oslo, Nico Paolorti.
Ah, c'est une correction bleue, 39-26 plus 13 pour l'équipe de France qui lance pour l'instant parfaitement son euro. Il reste 5 minutes et on peut se permettre de faire tourner tranquillement l'effectif.
Magnifique.
Entre en matière tranquille pour la France.
Il ne faut plus douter, ces Tchèques. Magnifique. 39-26 du
une
coup.
Belle
25
équipe,
pour la plus. C'est une belle équipe, ouais, c'est ça. Allez, 6e du dernier euro, on te rend compte, Côte l'a dit.
6 sur 8.
Dans un instant, est-ce que le Maroc a fait le plus dur? C'est la barre de Rotten sans flamme.
Ça y est.
Avec notre ami Younes Belanda qui
est là, Younes.
La finale dimanche entre le Maroc. Et le Sénégal, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h31 sur RMC, on est là dans Rotten sans flamme avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. Dernière demi-heure déjà, elle est passée vite, hein, cette émission de qualité, comme très souvent. On est avec dans 45 minutes, n'importe quoi. 19h45, je suis avec Louis Gerbier.
Eh oui,
il va faire le quiz.
Bien sûr.
Son quiz. J'ai été très bon hier, j'espère que je continuerai à me lancer.
Oh hop, ah oui, voilà, c'est ça, un hot dop. Voilà.
De match, bim.
C'est la routaine.
C'est du bois. Non, mais la routaine,
vous venez 5-0.
Non, ça a remis les compteurs à zéro.
C'est le principe de la routaine. Hein. Parfois c'est juste, parfois c'est injuste.
Écoutez, c'est souvent injuste.
On décide pas, c'est le hasard.
Quand tu parles de routaine contre le reste du monde, évite de parler de principe, s'il te plaît. Je pense que c'est mieux que tu choisisses un autre terme.
Jérôme, il m'a envoyé
la routaine.
Bah oui. Alors, je ne l'ai pas partagée sur les réseaux, mais je pourrais tous vous la partager. Et
Il n'y a pas de triche, elle tourne, elle s'arrête où elle peut. C'est terminé au handball. Quelle entrée en liste de l'équipe de France face à la République tchèque?
Plus 14, 42 voilà, buts marqués pour l'équipe de France. Victoire 42-28, c'est une entrée en matière parfaite. Et les Bleus envoient un message, hein. Ils sont bien là pour défendre leur titre de champion d'Europe. Ils veulent le gagner et ça se ressent sur le terrain. Très bon départ de l'équipe de France qui jouera l'Ukraine dans deux jours.
Magnifique. Merci Nico. Match à suivre sur RMC.
C'était beaucoup de suspense. Merci.
Allez, tout de suite, c'est l'arbitre vidéo, t'appelles Jérôme.
Jérôme, oui. Je t'invite à écouter ça.
Youssef.
Il est en train de chialer, le Boutron.
Tu l'as pas gagné, la canne. Hein.
La VAR de Roten sans flamme.
Laisse-moi accueillir la légende marocaine, Younes Belhanda, qui est là. Salut Younes.
Salut Younes. Salut à tous.
Younes, on n'a même pas tremblé hier.
Pas du tout. Les détracteurs.
Et voilà, crack. Le Maroc qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique. Victoire au tir au but face au Nigeria. 4 tirs au but à 2. Le Maroc va donc disputer la finale de sa Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal dimanche à 20h sur RMC. Bah allons-y, Younes, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que tu as souffert? Est-ce que tu as apprécié la prestation marocaine qui a largement dominé cette équipe, le Nigeria?
Franchement, je me suis régalé hier. J'ai été critique après le match du Cameroun parce qu'il n'y avait pas assez de jeu, ils n'étaient pas entreprenants avec le ballon. Mais hier, ils m'ont régalé dans tous les plans, de jeu, que ce soit défensif, dans l'intensité, avec la sortie du ballon. Ils arrivaient à aller d'un côté à l'autre avec ce million losange du Nigeria. Walid a été très bon hier. Les joueurs ont été très bons hier. Franchement, je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé dans tous les plans du jeu hier.
T'as pas tremblé sur les tirs au but?
Non, parce qu'il y avait Bounou dans les cages, donc j'ai vraiment pas tremblé. Les joueurs ont été sereins pendant tout le match, donc je me suis pas fait.
Ouais, puis il y avait Choukouézé aussi, donc.
Les joueurs du Nigeria sont sortis, donc je pense qu'ils avaient la pression aussi.
Ils sont cachés. Choukouézé, il avait pas de pression, lui, il s'en battait les couilles. T'imagines, quoi, quand même. Je sais pas si Jean-Michel et Steve, vous avez vu l'image, mais tirer un pénalty, tu rentres une minute. Comme ça, il te fait rentrer pour tirer un pénalty et t'as un chewing-gum, tu fais une bulle juste avant de poser le ballon.
C'est la bulle qui est terrible. Ouais, c'est la bulle en posant le ballon.
Et derrière, tu prends deux pas d'élan, tu marches et tu mets un vieux plat du pied gauche.
Jérôme, des fois c'est la pression. Hein. Des fois, tu fais le décontracté.
Non, mais comment? Non, mais Younes, pas ça. Mais pas comme ça.
T'es en demi-finale. Tu as Bono dans les cages. Il prend toutes les cages.
Ah, Bono, c'est un gardien.
C'est un gardien. C'est un très bon gardien. Dans les tirs au but.
Non, mais tant mieux.
Il fait très peur.
Walid. Est-ce que le Maroc a fait le plus dur, les gars, alors?
Le plus dur de quoi? Mais non. Mais arrêtez avec le plus dur. Le plus dur, c'est de gagner la compète. Il reste une marche. Alors là, ils sont à 90, voire 120 minutes de gagner, enfin la CAN. Ça fait 50 ans, c'est
50
ça?
50 ans, ouais.
Donc, ça serait fantastique parce que ce groupe le mérite. Parce que moi, en fait, ce que j'aime et Walid, Younes vient de le dire. C'est vrai que tu peux être critique sur la façon de jouer, ça peut plaire, pas plaire. Avec les joueurs que t'as, tu peux essayer de demander plus de jeu. On en revient, on a fait le débat, Younes, tout à l'heure, sur le foot de sélection, à pas comparer avec le foot de club, parce que c'est complètement différent. Mais c'est vrai que Walid Regragui, c'est pas parce que je l'adore, Walid, mais il fait un travail remarquable. Et dans la gestion des hommes, la gestion du groupe, je trouve que c'est fabuleux. On le voit sur des images, il y a des images clés, tu sais, quand ils se rassemblent, quand il y a des sourires, même des joueurs qui sont remplaçants, qui jouent pas, les sourires avec le sélectionneur et tout, ça veut dire beaucoup dans la vie du groupe. Et je trouve qu'il tient très bien. Et surtout, comme tu l'as très bien dit, là il a contré le plan de Eric Schell. Et pourtant tout le monde disait, et nous aussi, que le Nigeria c'était l'équipe qui jouait le mieux et qui se créait, voilà, qui se créait le plus d'occasions.
Ouais,
et hier ils ont quasiment aucune occasion, le Nigeria.
Premier corner, 97e minute pour les Nigérians. Jean-Michel, Steve, Jean-Michel, est-ce que tu as regardé le match? Est-ce que tu t'es régalé?
Et malheureusement pas. J'étais malheureusement dans le train de retour de la pour la cérémonie de
coach
de notre ami. Je n'ai vu que les tirs au but et je me demandais pourquoi Osimhen ne les tirait pas. Je suis rentré à ce moment-là. Et
parce qu'il était fatigué à 3 minutes de la fin.
Parce que une blessure est arrivée à la 118e minute.
118e, il a dit
il s'est extirpé de ce match et de ce bourbier pour se dire peut-être.
Il a dit je vois plus rien avec mon masque, je veux peu tirer.
Ah, c'est fou cette histoire. Steve, t'as regardé? Tu t'es régalé?
Ouais. Moi, je me suis régalé parce que c'est là où on se dit quand même que la technique, bon, c'est une chose quand le mental est là, mais quand athlétiquement, surtout quand t'es au rendez-vous, quand t'es au rendez-vous, et je crois que surtout c'est la montée en puissance pendant la coupe, pendant la CAN. On a vu pendant les premiers matchs que techniquement ils arrivaient à faire des choses, ils arrivaient à passer mentalement des fois, mais physiquement on sentait qu'ils étaient encore un peu dans le dur, ils étaient un peu dans la souffrance. Alors les adversaires des fois les ont aidés à gagner les matchs. Mais là, par contre, hier, il y avait quand même une grosse confrontation, une grosse opposition athlétique quand même. Ils ont réussi à tenir le choc. Et parce que bon, ils n'ont pas été non plus ultra performants offensivement, mais ils ont réussi quand même à tenir le choc physiquement. Ce qui les a permis quand même d'être assez lucides pour les tirs au but quand même.
Ouais, mais c'est pas que physiquement qu'ils gagnent le match.
C'est pas ce que je te dis. Depuis le début de la compétition, c'est qu'on a quand même été assez unanime. C'est qu'il leur manquait quand même un peu de punch. Franchement, dans redoubler les efforts, les contre-efforts, à part certains joueurs, mais généralement ou collectivement, il leur manquait un peu de physique. Et dans la programmation de Waïd, je pense qu'il a calculé le fait qu'ils aillent en demi-finale. Et on le sait, nous, on est anciens sportifs, on sait qu'il y a une programmation faite par les préparateurs athlétiques.
Le pic de forme,
tu veux dire? Le pic de forme. Ça, mais
Jérôme, tu crois que c'est du hasard?
Arrête les gros mots.
Pardon, stop,
mais arrête, c'est du hasard. C'est carton rouge.
Arrête, Jérôme.
Ben,
quoi, tu m'énerves quand tu banalises.
Non, mais c'est un ordinateur. Et tu vas me dire, alors là, on fait une préparation pour être prêt pour les demi-finales. Et pour la finale, on est au top, hein. Mais par contre, en quart de finale, qu'on va passer à la trappe. Ah, bah, c'est pas grave.
Parce que, Non, mais des fois, tu abuses.
Bah non,
Tu sais très bien que c'est pas du hasard quand même.
Non,
c'est pas ça. Depuis le début, il a un plan et le plan, je pense que c'est le même. C'est d'être costaud et de pas prendre de but.
Depuis le début, il a rien changé.
Son équipe, elle a toujours joué de la même façon.
Exactement.
C'est vrai qu'à certains moments, à des matchs, il a plus joué ou moins joué. On lui a laissé le ballon. Il a pris le ballon comme contre le Cameroun où le Cameroun a un peu pressé haut. Ils ont préféré leur donner le ballon et
surtout en deuxième mi-temps, Walid.
C'est ça, exactement.
Pourquoi je t'appelle Walid?
Mais hier,
tout à l'heure.
C'est pas possible.
Younes.
Bah non, c'est pas pareil.
Ouais, c'est pas grave. Pardon. Mais hier, contre le Nigeria, où le Nigeria, par moment, a essayé de presser quand le ballon il faisait des passes en arrière, ils ont essayé un peu de presser. Mais le Maroc, avec la qualité qu'ils ont eue et la relance qu'ils ont eue, ils ont déjoué rapidement ce pressing du Nigeria.
C'est que
depuis le début de la compétition, le Maroc n'a pas tremblé. À part contre le Mali un petit peu, où le Mali a été bon dans le milieu de terrain à certains moments, mais depuis le début de la CAN, ils ne les ont pas vu trembler.
Si t'es pas bien physiquement, ton pressing, et si t'es bon techniquement, tu vas pas le tenir. Tu vas pas être bon techniquement, tu vas pas pouvoir ressortir le ballon.
Le Maroc, depuis le début de cette compétition, ne fait pas le pressing. Ils attendent mid block.
Ils attendent au milieu de terrain.
Je te parle de l'adversaire.
Tu parles de l'adversaire, bien sûr. Bah après, tu joues contre le Maroc. Hein. Tu vas presser contre le Maroc et tu sais que les joueurs que tu as en face et que tu rates ton pressing, ça va au but.
Non, c'est Younes, c'est le grand Younes Belhanda. Younes, tu sais mieux quiconque l'ambiance qu'il y aura dimanche pour cette finale de la CAN face au Sénégal. C'est un match dangereux tout de même pour les Marocains, parce que le Sénégal, mine de rien, est avancé un peu masqué, mais a fait le boulot et se retrouve en finale avec une belle équipe et une équipe assez solide et un grand joueur, Sadio Mané. C'est un match très difficile qui attend les Marocains.
Comme vous l'avez dit, le Maroc, la dernière finale, c'était en 2004.
Ouais.
La dernière finale, je ne me rappelle pas c'était quand. Donc le Sénégal qui est habitué à jouer des demi, des finales depuis les dernières années, bien sûr, ils sont pas là pour rien. Hein. Ils ont fait la finale, je crois, c'était 2019.
c'est faut faire attention, Sadio Mané
et c'est sa dernière
Koulibaly suspendu
Koulibaly suspendu,
ce qui est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle quand même pour le Maroc, Koulibaly.
Mais tu joues à domicile.
Oui, tu joues à domicile
et j'ai en feu, t'as fait un match de feu contre, en demi-finale contre le Nigeria.
C'est vrai, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Bah, et puis surtout
finale, ça se gagne.
Et voilà,
comment la finale elle se
gagne. Comment en jouant bien, en jouant pas bien et tout ça, voilà, mais après, en termes d'énergie, vous en parliez tout à l'heure physiquement, vu qu'ils ont préparé, comme le disait brillamment Steve, donc peut-être au pic de forme pour la finale.
Pic de forme pour la
donc
finale.
Normalement, Ibrahim Diaz devrait être meilleur qu'hier, parce que Ibrahim Diaz, il a été au pic sur les premiers matchs. Hier, il a replongé. Donc normalement, il devrait avoir un pic de forme dimanche.
Faut pas oublier que les Marocains, c'est des marathoniens.
Et voilà.
Jérôme,
on l'a vu, hein. Jérôme Gâteau pour le quiz. Merci Younes d'être venu.
C'est Younes.
Bonne avec finale plaisir. Dimanche.
Merci Younes.
Dima Maghreb. La prochaine, hein. Dima Maghreb.
Et la semaine prochaine.
Bonne soirée à tous.
Salut Omar.
À la semaine prochaine.
Ciao. Merci Younes.
Bisous.
Dans un instant, tous contre Roten, le quiz de Roten sans flamme.
Ah, j'ai déchiré.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h48 sur RMC, c'est le quiz de Louis Gerbier, ça y est, c'est l'heure de la routaine, bien sûr, on est avec Jean-Michel Larquet, il adore la routaine. Steve Savidan, il l'adore aussi.
Ah ouais.
On est avec Benoît Boutron qui sera peut-être décisif sur la routaine, ben ça j'espère. Peut arriver.
Et attention.
Et deux auditeurs. Je crois qu'on a
deux beaux auditeurs,
un grand,
vous allez
un grand chanteur.
Exactement. Grand chanteur. Et dans un quart d'heure, Génération After avec un invité exceptionnel, c'est Valère Germain qui sera l'invité de Génération After pendant une heure. Donc Valère qui va réagir à toute l'actu foot et qui va nous donner de ses nouvelles. Valère Germain, donc ne pas louper entre 20h et 21h. Mais tout de suite, c'est le quiz.
RMC, tous contre Roten.
Avec un Louis Gerbier dans un état, mais dans un état.
L'état d'en dessous, c'est le décès.
Les yeux vitreux, le masque FFP2, incroyable.
Mais qu'est-ce que tu nous fais là,
c'est fou, là.
Je tiens, je me battrai jusqu'au bout pour le quiz.
Non mais Anaïs, elle peut pas te gérer comme
Anaïs,
ça.
Anaïs, c'est la productrice des Grandes Gueules.
Elle est revenue, elle a repris les rênes, tout va bien, vous inquiétez pas.
Vont s'affronter pour remporter une carte cadeau de 100€ à valoir chez Maison Scarlett. Francky et Vincent. Salut à vous deux.
Francky, Vincent.
Salut.
Ça va aller.
C'est bon. Allez, vas-y, Francky, c'est bon.
Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon.
J'ai connu mieux comme blague, mais bon, vas-y.
Ah non, mais il y a Francky et Vincent qui vont s'affronter.
Mais oui, c'est Francky et Vincent.
Ouais, c'est génial.
Bah, si.
Il est où, Vincent?
Vincent, t'es là?
Ouais, je suis là.
Francky, t'es là?
C'est l'année de l'humour. Oui,
voilà.
Je suis là.
Voilà, magnifique. Ah ouais, on est une mission d'humour.
Francky, tu veux jouer? Alors, les deux sont supporters de l'OM.
Il y a Steve.
Qui veut se dévouer pour jouer avec Jérôme? Francky ou Vincent, alors?
C'est quoi, je disais à Benjamin Nivet qui est sur la route, je disais mais il écoute la radio.
Ils ont pas envie.
Tu vas rien apprendre, laisse tomber.
Qui?
Allez, je me dévoue.
Oh là, qui se dévoue pour jouer avec Jérôme alors?
Allez, vas-y, je vais jouer avec Jérôme.
Bon, bah maintenant ils se battent.
Bon, ça ils se battent. Ils veulent tous devenir supporters du PSG.
Je comprends.
Jamais d'avis.
Allez, Francky avec Jérôme et Vincent avec le reste du monde. Jean-Michel est bien là, il joue. Hein. Avant la routaine.
Oui. J'attends la routaine, moi.
D'accord.
Jean-Michel, c'est. Ouais, d'accord, c'est pas
comme bon. Assurez-moi, Gerbier est de ce monde encore. Il est...
Ouais, bah, tout juste. Parce que là, ça se dégrade de jour en jour. Hein.
Allez, on va faire
déjà
un thème.
Que c'est pas beau à voir.
On va faire un thème sur l'invité d'Allo Jérôme, le plus grand défenseur de l'histoire du Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
Mamadou Sakho.
Bien sûr.
Ah, si. Ouais. Bah, pour le petit Louis de 15 ans, c'était le cas. Je te le dis. Mamad, on commence tout de suite. Quel entraîneur les cartes du groupe pour la tournée américaine de son club en 2016?
Ah, pas mal.
Pour des causes de comportement.
Réfléchissez.
Bah, Klopp.
Bah oui.
Et voilà.
Ouais, chantez que t'écoutais qu'à moitié.
Oui, ah ouais, c'est ça.
1-0 non,
je
pour Francky et Jérôme.
L'occasion à Steve et Jean-Michel.
Non, mais... toi, t'attends la routine.
Allez, 1-0 pour Jérôme face au reste du monde.
Francky, Vincent.
Ah.
Quel est
c'est
le
sérieux là?
Ah oui.
Quel est le numéro emblématique de Mamad?
Oh putain.
Ah oui, il est marseillais là.
C'est le 4, non?
Eh, pas loin.
Pas loin.
Le 5.
Pas loin.
Pas loin.
Un peu plus loin.
Le 6.
Bah, un peu encore plus loin là.
Dans l'autre sens.
Faites demi-tour si possible, faites demi-tour.
Le 3.
Ah, le 3, bravo, qui a dit le 3? Francky?
Le 3.
C'est qui a dit le 3?
C'est Vincent.
C'est Vincent.
Et avec
ça
moi.
Ça fait
Vincent.
Un partout.
Ah, mais il est pas avec moi.
Ça fait un partout. Mais t'es pas un gratteur.
T'es avec Francky.
T'as pas été contaminé par Gerbier.
Question pour le patron.
Salut, c'est Jérôme Rotten.
RMC. La question pour le patron.
Il n'y a que lui qui répond, c'est ça?
Non,
tout le monde peut, mais là, je dois avouer clairement, je pense que vous avez un désavantage. Finissez.
C'est rare.
C'est rare.
Tes questions, c'est rare.
Finissez la phrase mythique associée à Mamad. Paris-tu? C'est très technique.
Paris-tu?
Ouais, Paris.
Paris, tu peux pas. Pas test.
Non, mais t'abuses là aussi. Test,
qu'est-ce qu'il y a?
Ah oui.
D'accord. On en est là.
Paris, moi, celle-là, elle était pour
moi. Tu penses vraiment que Captain Larkin allait dire Paris, tu peux pas tester, qu'est-ce qu'il y a?
Bah, j'en rêvais, bon, mais c'était vraiment.
Ça
ouais,
fait 2-1.
C'est quoi cette phrase là?
Bah, tu vois, il y a
une phrase
Paris,
de Mamad.
Paris, tu peux pas tester, qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'avoue, j'ai peut-être un peu surdosé là, celle-là, mais ouais, pour la prochaine, on va y arriver.
2-1 pour Jérôme, pour la fin du monde.
Question Larkin.
Ah, voilà.
23, code de Kinorel pour les jeunes. Kinorel.
Gerbier, t'es un truand.
Est-ce que Jean-Michel a deux points s'il répond à une question Larkin? Non.
Ah non, ouais. Non.
Ah, c'est dommage.
Non, faut pas déconner, c'est à domicile, ouais. Ça.
Bon, d'accord.
Quel ancien joueur des années Minitel a donné le brassard du PSG au jeune Mamad?
Ancien joueur.
Même pas encore majeur.
Paolo. Oui, bonne réponse. Voilà. Deux partout. Qui? Bravo Jean-Michel.
Paul Le Guen.
Et voilà. Jérôme, c'est ton époque.
J'avais pas compris la question.
Ah, c'est vrai qu'elle
fait
de la question.
Non, mais la question, on peut dire.
Qu'est-ce que tu avais compris comme question?
Bah, que le capitaine qui est.
C'est compris comme toi,
Paoletta. Ouais. Allait donner le brassard à Mamad.
Et du coup, t'as même pas dit Paoletta. Parce que c'était ça.
J'allais le dire.
Ah, d'accord. Paoletta, il a joué à la
fin de Minitel. Ah, bah, elle est là.
À la routine.
Déjà, on aura répond pour tout le monde, sauf pour Jérôme.
Ah.
Voilà. Ah, j'adore. Arrête de me soudoyer, tu me dis pas, réponds pas. Il me dit, réponds pas, sinon le Maroc il perd. Ça va pas, non? Assume tes propos.
Bon, allez, on va finir.
Le Maroc, il va perdre, hein, si tu réponds.
Non. On va finir avec la question Savine.
Si je gagne le coup.
Ah, c'est pas forcément Florichon.
C'est quoi ça, cette question?
C'est quoi la question Savine?
C'est quoi ça déjà? Eh ben en fait, je vais citer tous les clubs d'un joueur qui est passé que par des clubs pas hyper florichons, quoi.
Comme Steve.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ok.
Alors, on cherche un coéquipier de Mamad à Montpellier, Benoît.
Ah, oula.
Ouais, j'ai pas pris trop de temps.
Aïe. Oh, c'est bon, je l'ai déjà.
Allez.
Bien sûr, je te vois arriver.
Montpellier.
Dijon, Créteil, Metz, allez, Montpellier, bon. Schalke, Nantes, Lausanne.
Eh bien, Benjamin Stambouli.
Pas du tout. C'est pas du tout.
Et j'ai encore une deuxième chance?
Oui.
Bon. Non, mais non.
Bah si, là.
C'est donc Florent Mollet.
Oui, c'est lui.
Mais pourquoi une deuxième chance, il a eu?
C'est
pas une question à un
et
coup.
Et crac. Et voilà, victoire du reste et du monde.
Non, mais bravo Jean-Michel. Tu te rends compte, la famille.
Bravo Steve.
La famille, bravo, tu veux aller contre le Maroc?
Eh ben non, mais c'est pas toi qui décide.
La famille
bravo
marocaine.
Vincent, il faut pas se cacher derrière la superstition. Il faut gagner sportivement. Bravo Vincent, tu remportes ce magnifique cadeau.
Tous contre Roten sur RMC avec Maison Scarlett, la marque française numéro 1 de boîte à bijoux et boîte à montres, jolie, pratique et accessible. Rendez-vous sur maison-scarlett.fr.
Sur Roten, vous avez atteint le quota de gros mots de 2026 en une émission.
C'est
terminé.
Exactement.
Et le quota de tentative de corruption.
Oui, aussi.
Je ne sais pas pourquoi. Si, peut-être une explication. J'ai parlé avec Pascal Olmeta aujourd'hui. Je m'en excuse. Demain, il n'y aura pas un gros mot.
D'ailleurs. Merci Louis Gerbier. Remets-toi bien. Sois là demain. Tu n'as pas d'excuse.
Non, je me bats.
Ok, super. Merci Jean-Michel Larkin. Merci Steve Savidan. Vous avez été excellent. Et dans un instant, c'est Génération After avec un invité exceptionnel, Valère Germain.
Merci Benoît.
Merci
Jérôme. Et on se retrouve demain pour. On finit cette magnifique semaine et on va se régaler demain parce qu'on va lancer la 18e journée de championnat de Ligue 1. Donc soyez au rendez-vous, Rotten sans flamme, ça ne s'arrête jamais tout au long de la semaine à 18h demain. On est là avec notre multiplex à 19h, ne ratez pas ça. Bisous, à demain.
RMC jusqu'à
20h. Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.